Que Dieu vous bénisse. Vous allez entendre le message « Les choses qui sont à venir » prêché le 5 décembre 1965 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. À Fairboon et à l'Assemblée, je dirais que c'est vraiment un grand privilège pour moi d'être de nouveau à San Bernardino. Cet endroit renferme beaucoup de souvenirs formidables du passé. Et d'apprendre que notre passage ici produit encore des effets visibles aujourd'hui, eh bien certainement que nous sommes réjouis que le Seigneur nous ait conduits ici il y a des années. À l'instant, j'étais dehors, dans le parking, et j'essayais de me rappeler un des événements qui s'était produit. Il y avait une certaine Madame Izzy Axon qui avait été mon interprète en Finlande lors d'une tournée en Finlande. Et elle s'était approchée de la voiture juste au moment où j'allais partir. Et elle a dit, « Votre voix de Finlande. » Alors, je me demande si Mme Isaacson n'habiterait pas dans les environs. Je ne savais pas, je ne pense pas qu'elle soit ici ce soir, Mme May Isaacson. Et elle est originaire de Finlande. Et puis, une autre chose extraordinaire qui m'est revenue à la mémoire, c'était une petite serveuse dans un restaurant où j'allais manger, pas loin d'ici, qui s'appelle l'hôtel Antlers. Je crois que c'est ça. Et cette jeune femme avait, je priais avec elle, c'était une brave jeune femme, mais elle n'était pas chrétienne. Je l'avais invitée à venir aux réunions. Elle avait perdu un bébé, et je crois que son mari, qui s'était séparé, et nous avions prié qu'elle se réconcilie avec son mari ou qu'ils se réconcilient l'un avec l'autre. Donc, je me demande si cette jeune femme ne serait pas ici. Voyez, et puis un autre événement qui s'était produit, un petit bébé avait été amené d'un endroit situé à environ une journée de voiture. Il était mort. Il était dans les bras de sa mère. Il a été ramené à la vie. Est-ce que cette personne serait ici? Elle était venue, je crois, de l'État qui se trouve dans cette direction, au-dessus d'ici. Cette petite maman qui avait roulé toute la nuit avec le papa, cette petite maman qui était assise là, toute triste, tenant dans ses bras la petite dépouille de son bébé. Et je me suis dit, quelle foi! Même si j'avais été le plus grand hypocrite du monde, Dieu aurait honoré la foi de cette mère. Je tenais ce petit bébé avec mes mains comme ça en priant. Il s'est réchauffé, il s'est mis à bouger. Il a ouvert ses petits yeux, je l'ai rendu à sa mère. Donc, il venait d'un certain endroit. Toutefois, je ne pense pas qu'ils étaient pentecôtistes. Ils étaient simplement, je crois qu'il s'agissait simplement d'une église qui, je ne sais même pas s'ils étaient chrétiens ou pas, je ne leur ai pas posé la question. J'étais tellement ravi que ce petit bébé avait été ramené à la vie. Depuis ce temps-là, frère Boone, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Mais nous sommes toujours là à servir le même Dieu qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. En promenant mes regards, je vois le frère Leroy Cop qui est assis là. C'est la première fois que je le revois depuis longtemps. Paul, c'est vrai. Leroy, c'est votre père, c'est vrai. Oh là là, en Russie. Eh bien, je sais que ce vaillant soldat, s'il est là-bas, c'est qu'il y est en mission pour le roi. Donc, je suis vraiment heureux d'être ici et d'entendre ce jeune ministre dire qu'il a été inspiré par notre ministère lorsque nous étions ici. C'est vraiment réjouissant. Et maintenant, j'espère que, vu que nous avons, il y a des gens debout, alors nous ne prendrons pas trop de temps. Nous gardons le souvenir de ces glorieux services de guérison. Et d'après ce que j'ai compris, il y a un frère ici, quelque part dans les environs, qui fait une campagne de guérison, un certain frère Leroy Jenkins. Je crois que c'est ça. Donc, je suis très reconnaissant et j'ai confiance que le Seigneur le bénit et lui donne une très, très bonne réunion. Je me suis senti très honoré ce soir d'entrer dans une église comme celle-ci. Je me sens toujours mieux dans une église que dans les salles de spectacle. Rien contre la salle de spectacle, mais vous savez, c'est peut-être une superstition il me semble que c'est une vérité. Vous voyez, on va dans les salles de spectacle, là où ont lieu des combats, de la lutte, des spectacles de variété et tout le reste, et on dirait que de mauvais esprits rôdent dans ces endroits-là. Bon, ça peut être, semble être de la superstition, mais ça n'en a pas. Mais quand on vient dans une église, généralement, d'autant plus si c'est une assemblée spirituelle, on dirait qu'on se sent plus à l'aise. C'est comme si il y avait quelque chose. La présence de Dieu est là. Vous savez, on dirait que ce n'est pas pareil. Je ne sais pas quel effet produit le bâtiment, mais c'est l'endroit où les personnes sont rassemblées. Bien sûr, ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve dans l'autre endroit, mais le terrain est mauvais. C'est peut-être juste une idée à moi, mais quoi qu'il en soit, je suis heureux d'être ici ce soir. Et maintenant, nous ne voulons pas vous retenir trop longtemps, puisqu'il y a des gens debout, et demain soir, nous irons à un autre endroit ici. Je ne sais même pas où c'est près d'ici. Où? À la salle de spectacle d'Orange pour les services de demain soir. Ceci, c'est entre deux. Je fais une tournée pour les hommes d'affaires, le groupe des hommes d'affaires du plein évangile, pour lequel j'ai eu le privilège de parler dans le monde entier. Et alors, pendant cette période, un très cher ami nous a invités à venir ici, et nous sommes heureux d'être dans cette assemblée ce soir. Maintenant, avant d'ouvrir la Bible, bien sûr, toute personne qui a de la force physique peut l'ouvrir comme ceci, voyez, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous ouvrir la parole, ouvrir notre entendement et révéler les Écritures. Je crois à la Bible. Je crois que c'est la parole de Dieu. Je crois que la terre ou que les peuples de la terre seront un jour jugés par cette parole. Oh, ça peut paraître étrange. Il y a beaucoup de gens qui ne partagent pas ce point de vue. Il n'y a pas longtemps, je parlais à l'un de mes très fidèles amis qui est catholique, et il disait, « Dieu jugera le monde par l'Église catholique. » Si c'est le cas, par quelle Église catholique, vous voyez? De même, s'il le juge par l'Église méthodiste, alors qu'adviendra-t-il de l'Église baptiste, vous voyez? S'il le juge par l'une ou l'autre, l'autre est perdu. Donc, il y a trop de confusion là-dedans, mais c'est à elle que nous devons nous reporter pour trouver notre déclaration véridique. Et la Bible dit que Dieu jugera le monde par Jésus-Christ. Et il est la parole, Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et Hébreux 13:8 dit, « Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et je crois que c'est la vérité. En effet, je crois qu'au Dieu, au commencement, puisqu'il est le Dieu infini, il est limité, et ou plutôt infini. Les êtres limités, c'est nous. Sa pensée est de beaucoup supérieure, alors nous, avec notre petite pensée limitée, nous ne pouvons pas comprendre sa grande sagesse infinie. Mais par conséquent, quand il dit quelque chose, ça peut nous paraître étrange, très étrange de l'entendre dire une certaine chose dans l'Écriture, mais cela doit s'accomplir. Je crois que ces paroles ne passeront jamais. Par conséquent, je crois que Dieu, qui sait que nous, avec notre petite pensée limitée, nous ne pouvons pas interpréter sa grande pensée, il interprète lui-même sa parole. Il n'a pas besoin d'interprète. Il interprète lui-même sa parole en confirmant cette parole en sa saison. Je crois que Dieu, au commencement, que Noé était la parole pour cette époque-là, pour son message. Ensuite est venu, après cela est venu Moïse. Or, Moïse n'aurait pas pu porter la parole de Noé. Il n'aurait pas pu construire un bateau pour les amener hors d'Égypte en descendant le Nil ou en voguant vers la terre promise ou quelque chose de ce genre. Son message à lui ne marchait pas à l'époque de Noé. C'était la partie de la parole de Dieu qui était confirmée comme étant la vérité par Moïse. Et Jésus non plus n'aurait pas pu avoir la parole de Moïse. Et Luther n'aurait pas pu conserver la parole de l'Église catholique. Wesley, lui, ne pouvait pas conserver la parole de Luther. Les pentecôtistes, eux, ils ne pouvaient pas porter la parole des méthodistes. Vous voyez, l'Église est en croissance. À chaque âge est assignée une portion de l'Écriture ici. Alors Dieu, par le Saint-Esprit, révèle sa parole en la manifestant et en la confirmant lui-même en montrant que c'est sa parole qui s'accomplit à l'époque pour laquelle elle a été promise. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, « Si vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres que je ferai, car ce sont elles qui rendent témoignage de qui il était. » Vous voyez, si quelqu'un avait connu l'Écriture, or il est venu de façon si bizarre, si étrange, que les gens n'ont pas voulu croire en lui, parce que lui, qui était un homme, il se faisait Dieu. Donc, il était Dieu sous une forme, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et personne ne peut faire ses œuvres si Dieu n'est avec lui, comme nous le savons. C'est ce que Nicodème a dit. Qu'est-ce que c'est que le Sanhédrin croyait? Or, nous savons que cette parole, s'ils avaient connu la parole, il a dit, si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu, parce que Moïse a écrit à mon sujet. Et nous nous reportons, s'il s'était reporté à l'Écriture pour voir ce que devait faire le Messie, alors il l'aurait reconnu au moyen de la confirmation que Dieu, par Christ, était en train de réconcilier le monde avec lui-même et d'accomplir toutes les promesses qui s'appliquaient au Messie qui devaient être accomplies par lui. Jésus a rendu témoignage de cette parole en faisant vivre cette parole pour cette époque-là. Et je crois qu'aujourd'hui, nous vivons la même chose. Dieu qui rend témoignage de sa parole en confirmant ce qu'il a dit qu'il ferait. Or, nous savons que c'est aujourd'hui le jour du salut, où Dieu appelle les hommes à sortir du monde d'une vie de péché pour vivre une vie de service. Et au jour où Dieu a répandu son esprit d'en haut, de grands signes et des prodiges doivent accompagner le ministère d'aujourd'hui. C'est le temps où les pluies de la première et de l'arrière-saison tombent ensemble. Et nous savons qu'il doit se produire de grands signes et des prodiges. Et dans beaucoup de grandes dénominations, ceci est rejeté. Mais je suis très reconnaissant de ces portes ouvertes par lesquelles j'ai pu entrer et de l'inspiration qui a été ainsi donnée à de jeunes hommes comme votre pasteur ici, ce qui les a amenés alors que je commence à prendre de l'âge et que je sais que mes jours sont comptés. Maintenant, je sais que ces jeunes hommes peuvent prendre ce message et continuer à le répandre jusqu'à la venue du Seigneur s'il ne vient pas dans ma génération. Mais j'espère le voir. Je l'attends chaque jour. Je veille, je me tiens prêt pour cette heure-là. Maintenant, parlons à l'auteur avant de lire son livre alors que nous inclinons la tête. Père Céleste, nous te sommes reconnaissants d'être en vie ce soir, de pouvoir revenir dans cette grande ville, au milieu de ce décor de montagne, en regardant, nous pouvons voir en même temps la neige et les orangers en fleurs. Quel monde magnifique tu nous as donné pour y vivre. Et en voyant combien l'homme a perturbé ce monde et la manière dont il a agi dans celui-ci, nous avons honte de nous-mêmes, Père. Nous sommes ici ce soir dans le but de déployer des efforts, d'essayer d'amener des hommes à voir cette grande chose que Dieu a faite et à reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand juste de l'autre côté. Puissions-nous regarder à cela ce soir, Père, alors que nous prendrons ta parole et que nous la lirons. Nous pouvons la lire, Père, mais fais que le Saint-Esprit nous la révèle par la révélation, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous qui aimez peut-être prendre des notes et lire l'Écriture avec le ministre, car généralement, il la lise. Autrefois, il y a des années, je n'avais pas besoin de noter mes références bibliques, ni rien. Mais depuis, j'ai vieilli un peu. Vous voyez, c'est que je viens de dépasser 25 ans, il n'y a pas longtemps, il y a 25 ans de ça. Alors, ça rend la chose un peu difficile. Mais j'essaie toujours de me cramponner, de faire tout ce que je peux selon ma connaissance de la parole jusqu'à ce qu'il me rappelle à lui. Maintenant, prenons Jean chapitre 14, un passage de l'Écriture que nous connaissons bien et que nous voulons lire ce soir pour y puiser un contexte si le Seigneur le veut. Presque tout le monde connaît ce passage. Il semble que souvent on l'utilise pour les services funèbres. S'il y a une fois où j'aimerais prêcher à un service funèbre, ce serait à celui de ce monde, qu'il meure et qu'il naisse de nouveau. Jean 14, de 1 à 7, je crois que c'est ce que j'ai noté ici. Que votre cœur ne se trouble point. Si vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons encore nous y référer en cours de route pendant cette petite leçon que nous aimerions apporter à l'Église. Hier soir, j'étais à Yuma, en Arizona, où j'habite maintenant. Et la dernière fois que je suis venu ici, j'habitais à Jeffersonville, dans l'Indiana. Maintenant, j'habite l'Arizona, par suite d'une vision qui m'a indiqué d'y aller il y a quelques années. Et c'est là que maintenant nous avons élu domicile. Je n'ai pas d'église là-bas. Frère Green, notre frère qui est ici avec nous, a fondé un tabernacle là où l'une des églises des Assemblées de Dieu, celle du centre-ville, elles ont fusionné et je pense qu'ils ont tous rejoint frère Brock et frère Gilmore, laissant cette église inoccupée. Et frère Perry Green du Texas, qui est l'un de nos associés, s'est installé là-bas et il a pris les locaux. Nous sommes heureux de savoir que frère Green a rouvert cette église qui était fermée. Et hier soir, j'ai prêché à Yuma chez les hommes d'affaires chrétiens. J'ai parlé sur le sujet de l'enlèvement. Ah, c'était peut-être un sujet étrange à traiter parmi à un banquet, mais la plupart des gens qui se trouvaient là étaient chrétiens. Et c'est le cas lors de tournées comme celle-ci ou bien dans une église. Je pourrais dire, bon, combien d'entre vous sont chrétiens? Probablement que toutes les mains se lèveraient. Vous êtes chrétiens. Donc, si nous sommes chrétiens, il me semble qu'il serait bon que nous soyons en quelque sorte prévenus à l'avance. Nous n'avons pas à nous contenter d'hypothèses. Nous sommes prévenus de notre destination. Et c'est de cela que je voudrais parler ce soir. Le sujet sera les choses qui sont à venir. Et vu qu'hier soir, j'ai parlé de l'enlèvement, alors ce soir, je voudrais parler sur ce sujet pour faire le lien avec le message d'hier soir. Donc, il y aura un enlèvement, ça, nous le savons. C'est quelque chose qui viendra dans l'avenir. Bon, ici, Jésus parle du fait qu'il est parti nous préparer une place. Que votre cœur ne se trouble point. Il s'adressait là à des Juifs. Il disait maintenant, vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Comme vous avez cru en Dieu, croyez en moi parce que je suis le Fils de Dieu. Voyez? Et Dieu, autrement dit, moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père demeure en moi et que ce que vous voyez faire, me voyez faire, ce n'est pas moi. C'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'était facile pour ces Juifs qui avaient reçu cet enseignement depuis des générations de croire qu'il existait un grand Dieu surnaturel, mais de penser que ce Dieu était descendu et qu'il se manifestait à travers la personne de son Fils, Jésus-Christ, que Dieu avait fait sa demeure dans un corps de chair, ça, c'était un peu trop fort pour eux. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Mais il disait, maintenant, comme vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi, car il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et je vais vous préparer une place. La vie de Jésus allait bientôt se terminer ici sur terre. Il avait montré aux gens et il leur avait prouvé qu'il était Jéhovah manifesté dans la chair par les grands signes et les prodiges et par les références bibliques auxquelles il s'était reporté où il était question de lui. Il avait prouvé qu'il était Dieu manifesté. Maintenant, il dit, quand vous verrez ma vie se terminer, c'est dans un but qu'elle se terminera et je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est donc en train de dire à ses disciples que cette vie ne se termine pas à la mort. Or, je disais que ce texte est utilisé pour les services funèbres. Souvenez-vous que nous, que la mort se trouve juste devant nous, et nous ne savons pas peut-être que certains de ceux qui sont dans ce bâtiment ce soir ne ressortiront pas d'ici vivants sur le plan de la vie physique. Voilà à quel point elle est incertaine. Dans 5 minutes, il se peut que des jeunes dans ce bâtiment, des jeunes gens en bonne santé, ne soient plus que des cadavres dans 5 minutes. C'est vrai. D'autre part, il se peut que dans 5 minutes, nous soyons tous dans la gloire. Nous ne savons vraiment pas. C'est entre les mains de Dieu. Jésus a dit qu'il ne savait pas lui-même quand il viendrait ce moment, mais que c'était entre les mains du Père et de lui seul. Mais bon, il leur disait qu'après la mort, il y a une vie. En effet, je m'en vais préparer une place, et ce, afin de les accueillir. Ce qui montre que c'est ce qu'il leur disait, qu'il y a une vie après que cette vie est terminée. Quelle consolation cela devrait nous donner à tous de savoir qu'une fois que cette vie est terminée, il y a une vie dans laquelle nous entrons. Et à mesure que vous avancez en âge, cela devient de plus en plus une réalité pour vous. À mesure que vous voyez les jours de votre vie s'en rapprocher, alors ça commence à vous commencer à vous apprêter, à vous préparer pour ce grand événement. C'est, eh bien, c'est cette même vie qui se poursuit dans un autre monde, un autre lieu. Votre naissance ici a été programmée à l'avance. Je pense que vous croyez cela, chacun de vous le sait. Notre naissance a été programmée à l'avance. Saviez-vous que le fait que vous soyez ici n'est pas simplement le fruit d'un mythe ou d'une idée? Tout a été entièrement programmé à l'avance par Dieu avant la fondation du monde. Que vous seriez ici. Le Dieu infini savait. Pour être infini, il devait connaître chaque puce qu'il y aurait un jour sur Terre et savoir combien de fois elle clignerait des yeux. C'est ça, être infini. Voyez? Vous, notre petite pensée ne peut pas saisir le sens de infini, de Dieu infini. Il savait toutes choses. Par conséquent, il n'y a rien qui va de travers. Si nous connaissons la parole de Dieu, nous savons où nous vivons. Nous savons à quelle heure nous vivons. Nous savons ce qu'il y a devant nous. Nous voyons ce que nous avons déjà traversé. Et le livre de Dieu est la révélation de Jésus-Christ, ses œuvres au cours des âges passés jusqu'au livre de l'Apocalypse, et puis ses promesses qui doivent encore se réaliser. Alors, toutes ces promesses sont vraies. Dieu ne peut pas prononcer une seule parole sans qu'elle se confirme. Chaque parole qu'il prononce doit s'accomplir avant la fondation du monde. Il y a des gens qui confondent les faits. Dans la Genèse, là, quand ils disent « Dieu se répète », non, c'est vous qui comprenez mal, c'est tout, voyez. Dieu, au commencement, il a dit « qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait ». Le monde n'était que ténèbres, dans un chaos. Même quand il a dit que la lumière soit, il s'est peut-être écoulé des centaines d'années avant que la lumière apparaisse. Mais une fois qu'il a prononcé la chose, elle doit s'accomplir. Il faut qu'il en soit ainsi, voyez. Il a prononcé sa parole, ses semences étaient sous l'eau. Quand il a séché la terre, alors ses semences ont germé. Ce qu'il dit doit s'accomplir. Il a dit à travers les prophètes, j'en ai parlé hier soir, prenons par exemple Ésaïe, il a dit, une vierge concevra. Qui aurait pensé qu'un homme qui était bien considéré parmi les gens puisse dire une parole comme celle-là, une vierge concevra. Mais parce qu'il, un prophète est un réflecteur, il reflète Dieu. Il est fait de telle façon qu'il ne peut pas prononcer ses propres paroles. Il faut que ce soit les paroles de Dieu qu'il prononce. Il est comme un réflecteur et il est le porte-parole de Dieu. Et donc, il a dit, une vierge concevra. Il ne pouvait probablement pas comprendre ça, mais Dieu l'avait dit à travers lui. En effet, il a promis qu'il ne ferait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Et puis, quand il a dit ça, c'était 800 ans avant que ça s'accomplisse. Mais il fallait que ça s'accomplisse. Finalement, ces paroles de Dieu se sont ancrées dans le sein d'une vierge et elle a conçu et enfanté Emmanuel. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, père éternel. Il fallait qu'il en soit ainsi parce que Dieu l'avait dit par la bouche de ses prophètes. Et toutes les paroles de Dieu doivent s'accomplir. Par conséquent, nous savons que Jésus est allé préparer une place pour accueillir un groupe de gens auprès de lui. Quant à savoir qui sont ces gens, j'espère que c'est que nous faisons partie de ces gens ce soir. Si ce n'est pas le cas, mon ami, Dieu a établi un moyen, une condition qui vous permet d'en faire partie si vous le voulez. Vous avez votre libre arbitre, vous pouvez agir comme vous le voulez. Mais à présent, remarquez. Donc, dans ce monde à venir, il y a un monde à venir. Tout comme votre naissance ici, comme je le disais, vous avez été préparé. Dieu savait que vous seriez ici. Et maintenant, vous savez, même les choses que vos parents ont faites, bon, les gens pensent que ce n'est pas puni de génération en génération, mais ça l'est. Dans l'Épître aux Hébreux, je crois que c'est vers le chapitre 7, Paul parlait là, ceux qui l'ont écrite, je crois que c'est lui, il parlait d'un grand événement qui avait eu lieu avec Abraham alors qu'il avait payé la dîme à Melchisédek lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Or, il disait que Lévi était dans les reins d'Abraham lorsque ce dernier a rencontré Melchisédek en revenant de la défaite des rois. Puis il a considéré qu'ainsi, Lévi aussi avait payé la dîme quand il était dans les reins d'Abraham, son arrière-arrière-grand-père. Et il punit les péchés des gens sur leurs enfants de génération en génération qui n'observent pas sa parole. Voyez, tout ce qui vous concerne a été programmé. Programmé à l'avance par Dieu, avec Dieu, rien n'arrive par hasard, il sait tout. Tout est programmé à l'avance, programmé depuis des générations pour que vous puissiez être ici ce soir. Le saviez-vous? Pensez un peu que vous, À un certain moment, je répéterai ceci. Vous, à un certain moment, vous étiez dans votre peur, dans le gène de votre peur. Mais à ce moment-là, il ne vous connaissait pas, et vous non plus. Et à ce moment-là, vous ne le connaissiez pas. Mais ensuite, vous voyez, vous avez été placé dans le terrain d'ensemencement, dans le sein de votre mère, par les liens sacrés du mariage, et alors vous êtes devenu une personne, l'expression même de votre père. Là, il y a une communion. Maintenant, le seul moyen pour vous d'être un fils, une fille de Dieu, c'est qu'il faut que vous soyez, que vous ayez la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Là, pour être un fils de Dieu, il fallait que vous ayez été en lui depuis toujours. Le gène de votre vie spirituelle ce soir, était en Dieu le Père avant même qu'il y ait la moindre molécule, voyez? Et vous n'êtes rien d'autre que la manifestation du gène de vie qui était en Dieu en tant que fils de Dieu. Maintenant, vous êtes exprimé une fois que sa parole est venue en vous afin d'éclairer cette âge-ci. Vous exprimez la vie de Dieu en vous parce que vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Par conséquent, vous saisissez ce que je veux dire? Voyez? Vous êtes maintenant devenu, vous êtes dans cette église ce soir parce que votre devoir est d'exprimer Dieu devant cette nation, ce peuple, ce quartier que vous fréquentez. Où que vous soyez, Dieu savait que vous seriez là parce qu'il faut que vous soyez un de ses gènes ou de ses attributs. Il fallait que vous le soyez. Si jamais vous, si vous avez la vie éternelle, alors elle a toujours été la vie éternelle. Et Dieu, avant qu'il y ait une fondation du monde, il savait que vous seriez ici. Et quand la parole ou l'eau, le lavage par l'eau de la parole est descendu sur vous, vous, cela s'est exprimé dans un être. Maintenant, vous êtes en communion avec votre Père, Dieu, tout comme vous l'êtes avec votre Père terrestre. Voyez, vous êtes citoyen du roi, non pas citoyen, mais vous êtes enfant, fils et fille du Dieu vivant, si la vie éternelle demeure en vous. Donc, si c'était le cas, Jésus était la plénitude de Dieu manifestée. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Par conséquent, quand il est venu sur terre et qu'il a été manifesté dans la chair, vous étiez en lui à ce moment-là, puisqu'il était la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La parole a été faite chair. Par conséquent, vous avez marché avec lui quand vous étiez en lui, quand il était sur terre. Vous avez souffert avec lui. Et vous êtes mort avec lui. Vous avez été enseveli avec lui. Et maintenant, vous êtes ressuscité avec lui. Et vous êtes des attributs de Dieu manifestés, assis dans les lieux célestes, déjà ressuscité à une vie nouvelle et assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, c'est tellement important de nos jours, Église. C'est tellement important pour nous de nous voir placés dans notre position en Jésus-Christ. Or, si nous sommes ces attributs de Dieu, nous ne pouvons pas aligner notre vie sur des credos. Nous ne pouvons pas aligner notre vie sur le système de la dénomination. Nous devons aligner notre vie sur la parole parce que l'épouse est une partie de l'époux, tout comme la femme est une partie de son mari. Par conséquent, nous devons être cette épouse-parole. Et cette épouse-parole, qu'est-ce que c'est? La manifestation de cette heure-ci. L'épouse, non pas un credo, une dénomination, mais un oracle vivant de Dieu, un attribut vivant de Dieu, présentant au monde les attributs de Dieu sous forme de l'épouse qui doit être exprimée en cette heure où nous vivons maintenant. Martin Luther ne pouvait pas exprimer les attributs que nous exprimons, parce que c'était le commencement, la résurrection, comme pour le grain de blé qui a été mis en terre. Bon, nous allons encore citer ceci. Vous avez probablement lu le livre de cet Allemand qui se moquait de moi et qui disait que j'étais le plus fanatique des fanatiques. Il était absolument opposé à tout ce qui s'appelle Dieu. Il s'est même moqué de Dieu. Il a dit un Dieu capable d'ouvrir la mer Rouge, et il a dit de faire sortir son peuple, et il est resté assis là, les mains croisées sur son ventre. Il a laissé pendant l'âge des ténèbres tous ces gens mourir et souffrir, ses petits-enfants se faire manger par les lions. Vous voyez, tout le programme, toute l'Église est bâtie sur la révélation divine. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 16, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Qu'est-ce que c'était? Une révélation de qui il était. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Voyez, la révélation de Jésus-Christ en cette heure-ci. Pas ce qu'il était à une autre époque, ce qu'il était maintenant. Ce que la Bible exprime, c'est une croissance dans l'épouse jusqu'à parvenir à la pleine stature. Donc, si le grain de blé de Christ a dû tomber en terre, l'épouse aussi a dû tomber en terre pendant l'âge des ténèbres. Tout grain qui a été mis en terre doit mourir, sans quoi il ne peut pas se reproduire. Et cette glorieuse Église qu'il a établie le jour de la Pentecôte en envoyant le Saint-Esprit a dû souffrir le martyr et être enterrée, mise en terre pendant l'âge des ténèbres afin de reparaître dans l'âge de Luther et de se développer jusqu'à parvenir à la pleine stature de l'épouse de Jésus-Christ de ce dernier jour. Vous voyez, il n'y a pas moyen. Donc l'épouse apparaîtra dans l'enlèvement et tout cela a été programmé à l'avance par Dieu. Tout a été prévu. Dès le commencement, il connaissait chaque homme, chaque endroit, quelle personne y serait. Il savait tout ça. Tout est programmé à l'avance. Dieu savait que ce serait là. Et lorsqu'il l'a fait de cette façon, afin que lorsque nous arriverons là, il est allé nous préparer une place. Et lorsque nous arriverons là, tout aura été préparé. Tout comme cette soirée même a été préparée. Comme cette heure a été préparée. Oui, sa grande préscience lui dit toutes ces choses par préscience. Il est omniprésent parce qu'il est omniscient. Omniscient parce qu'il est omniprésent. Donc, par sa préscience. Bon, il ne peut pas être comme le vent au-dessus de la terre parce qu'il est un être. Il n'est pas un mythe, il est un être. Il demeure même dans une maison. Il demeure dans un lieu appelé le ciel. Et donc, par son puisqu'il est omniprésent, puisqu'il est omniscient, qu'il sait toutes choses, alors il est omniprésent parce qu'il sait toutes choses. Vous voyez? Vous, maintenant, vous avez grandi depuis votre naissance, le moment où vous êtes né et où vous êtes présenté dans ce monde. Dieu savait que vous seriez ici, sur cette terre, et vous avez grandi de la naissance à la maturité. Des choses qui vous paraissent tellement étranges quand vous étiez jeune femme, jeune garçon, quand vous étiez enfant, vous semblent maintenant tout à fait réelles. Vous ne pouviez pas les comprendre dans votre enfance. Mais maintenant que vous êtes devenu adulte, vous commencez à comprendre et vous découvrez que tout a été préparé de façon impeccable. Et vous, maintenant, cela a vraiment un sens pour vous. C'est pareil pour votre naissance spirituelle. Vous faites des choses que vous ne comprenez pas quand vous êtes un petit bébé, que vous vous avancez à l'autel, vous donnez votre vie à Christ, vous faites des choses tellement étranges. Vous vous demandez pourquoi vous les avez faites. Mais au bout d'un moment, après avoir mûri, une fois que vous êtes devenus des chrétiens mûrs, alors vous comprenez. Vous voyez, il y a quelque chose qui reprend le dessus. Vous voyez pourquoi il fallait que vous les fassiez. Votre naissance spirituelle, votre naissance naturelle est un titre de votre naissance spirituelle. Comme ça cadrait bien avec vous, au fur et à mesure que vous grandissez dans cette vie-ci, tout se mettait bien en place parce que vous aviez été fait pour ça. C'était étrange, n'est-ce pas, le soir où vous êtes entré en titubant dans la mission, à la réunion sous la tente et dans la petite église au coin de la rue quelque part, et là, le prédicateur a prêché sur quelque chose, sur un sujet, certains sujets, et vous êtes écroulé devant l'autel, voyez? Dieu savait cela avant la fondation du monde. Ça vous a paru étrange. Pour quelle raison à ce moment-là vous l'avez fait? Mais maintenant, vous comprenez, vous avez su ce qui est arrivé. Tout cela cadre si bien avec vous dans cette vie-ci et il en sera de même dans la vie à venir. Ce monde et sa vie semblent avancer au fur et à mesure que vous mûrissez. Tout semble progresser avec vous. Je ne crois pas qu'une personne soit ici juste par hasard. Maintenant, pensez un peu. Quand vous êtes venu au monde, tout devait être préparé au préalable pour vous, ou plutôt préparé à l'avance pour vous. J'ai de la peine à comprendre comment nous pourrions penser qu'un Dieu capable de préparer toutes ces bonnes choses pour nous, que nous ne puissions pas mettre notre confiance en lui. Car s'il nous a amenés ici dans le chaos où nous sommes maintenant et qu'il a préparé pour nous les bonnes choses de la vie ici, à combien plus forte raison pouvons-nous lui faire confiance pour la préparation des choses à venir? Vous voyez, des choses éternelles. Ça paraît, comme je dis, très étrange. Je ne pense pas que le ciel soit un lieu tel que ma mère me le décrivait. Je crois que l'Église a dépassé ce stade-là. De penser avant, il y a 100 ou 200 ans, il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel, qu'ils avaient une harpe et qu'ils s'asseyaient là-haut sur les nuages et qu'ils jouaient de la harpe. Bon, ils savaient qu'il existait un lieu appelé le ciel. Mais s'il en était ainsi, tous les musiciens auraient un avantage sur nous, vous voyez? Mais nous, ce n'est pas un lieu comme ça. Il ne s'agit pas de jouer de la harpe, pas du tout. Je ne crois pas que la Bible enseigne cela. Mais c'était une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole voie le jour ou l'ouverture des sept sceaux qui nous a été promise pour cet âge-ci et grâce à laquelle nous comprenons maintenant. Je crois que le ciel est un lieu réel, au même titre que ceci est un lieu réel. Vous voyez, car Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle dans ce lieu-ci, et je crois que le ciel est un lieu tout aussi réel que celui-ci, un lieu où nous allons pas rester assis là pour l'éternité, rester simplement assis là sur un nuage. Nous n'allons pas gratter notre harpe pendant tout le temps désormais et pour toujours, mais nous allons dans un lieu réel où nous ferons des choses, où nous vivrons, nous travaillerons. Nous nous réjouirons, nous vivrons, nous allons vers la vie, vers une vie éternelle, réelle. Nous allons vers un ciel, un paradis, tout comme Adam et Ève travaillaient, vivaient, mangeaient, se réjouissaient dans le jardin d'Éden avant l'entrée du péché. Nous sommes en route pour retourner là-bas, c'est vrai, y retourner. Le premier Adam, par le péché, nous en a fait sortir. Le second Adam, par la justice, nous y ramène. Il nous justifie et nous y ramène. Maintenant, vous qui recevez les bandes, ce message de la justification, je voudrais que vous le receviez. Vous recevez effectivement les bandes, alors je voudrais que vous vous procuriez celle-là. J'en ai parlé il y a quelque temps. Regardez vos parents terrestres. Avant que vous arriviez ici, avant de savoir que vous arriviez, ils ont préparé votre venue. Maintenant, pensez un peu à ça, vos parents terrestres, et un parent terrestre n'est qu'un type d'un parent céleste. Si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien de plus fortes raisons votre Père céleste saura-t-il donner de bonnes choses à ses enfants? Ce sont les paroles de Jésus, voyez. Ils ont préparé votre venue. Ils ont fait un petit berceau, ils sont allés chercher des petits chaussons et des petits vêtements et tout. Ils ont tout préparé pour votre arrivée, tout préparé avant même que vous veniez sur terre. Jésus est allé préparer notre venue là-bas. Maintenant, remarquez. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Ou bien mon intention n'est pas d'ajouter à la parole ou d'en retrancher quelque chose, parce que nous ne devons pas faire ça. Dans Apocalypse 22, il est dit, quiconque y ajoutera une parole ou en retranchera une parole. Mais je vais présenter ceci, pas pour faire un ajout, mais juste pour éclaircir un point. Il y a beaucoup de sortes de demeures dans la maison de mon Père. Je ne crois pas que, quand nous arriverons au ciel, que nous aurons tous exactement la même apparence. Je ne crois pas que toutes les femmes seront blondes ou brunes ou de petite taille ou que tous seront grands. Ou que tous seront les géants. Je crois que Dieu est un Dieu de variété. Ce monde en est la preuve. Il a placé de grandes montagnes et de petites montagnes. Il a placé des plaines. Il a placé des déserts. Il a placé différentes choses parce qu'il l'a créé comme il le voulait. Et il a fait les saisons, l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Il a fait les saisons. Ça montre qu'il est un Dieu de variété. Il vous a fait différents les uns des autres. Certains hommes sont très fanfarons, certains sont très dogmatiques, d'autres sont bien, d'autres sont gentils. On trouve vraiment toutes sortes de gens et dans son royaume, voyez. Regardez Saint-Pierre et jugez-le par rapport à André, vous voyez. André, c'est ce soldat de la prière qui restait là constamment sur ses genoux. Et l'apôtre Pierre était un de ces tisons qui prêchait avec feu et ainsi de suite. Et Paul, lui, était plutôt du genre érudit, plus comme le prophète ou quelque chose comme ça. Il prenait du recul. Et vous voyez, Moïse a écrit les quatre premiers livres de l'Ancien. En fait, il a écrit l'Ancien Testament. Le reste, c'était des lois, les rois, les psaumes et ainsi de suite. Et ce que quelqu'un a écrit à propos des prophètes. Mais Moïse a écrit les lois, les quatre premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique et Deutéronome. Et Paul, lui, a écrit le Nouveau Testament. C'est vrai, Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit les actes qui s'étaient produits et tout. Mais Paul a fait la distinction entre la loi et la grâce et il a mis les choses à leur place. Vous voyez, c'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. Il nous a donné les écrits du Nouveau Testament. Il a mis en ordre la parole de Dieu. Maintenant, remarquez. beaucoup, beaucoup de demeures, beaucoup de sortes de demeures, comment beaucoup de sortes de collines, comme beaucoup de sortes de rivières, de sources, de lacs. Ils étaient déjà là quand vous êtes arrivés, parce que la bonté de votre Père Céleste les a placés ici. En effet, certains hommes aiment les montagnes, certaines personnes aiment les étendues d'eau, certaines aiment le désert. Donc, vous voyez, votre venue, il connaissait votre nature et ce que vous seriez, alors il a fait les choses précisément de façon à ce que vous puissiez y trouver un plaisir. Oh, je trouve qu'il est un Père merveilleux, vous voyez, lorsqu'on sait qu'il a fait les choses ainsi. Je suis content qu'il ait fait les montagnes. Moi, j'aime les montagnes et j'aime ça, alors que les autres, eux, oh, je déteste. Oh, il doit y avoir vidé là son auge à mortier. Eh bien, il l'a vidé pour que je puisse y trouver du plaisir. Voyez, vous direz donc, moi j'aime les plaines où je peux voir très loin. Eh bien, voilà deux natures différentes et nous sommes tous les deux chrétiens. Mais le Père savait que vous seriez ici et il a tout préparé pour vous avant que vous arriviez ici. Amen. À votre première venue ici, quand vous êtes arrivé ici, il avait déjà préparé ça pour vous. N'est-ce pas merveilleux de penser à ce qu'il a fait? Bon. Mais souvenez-vous, là, que ces choses ne sont que des dons temporels, des types. Or, nous savons que Moïse, lorsqu'il a construit le tabernacle dans le désert ou qu'il l'a préparé, il a dit qu'il avait tout fait selon l'ordre de ce qu'il avait vu au ciel. Voyez? Donc, les choses terrestres ne font qu'exprimer ce que sont les choses éternelles. Et si cette terre où nous vivons aujourd'hui est si magnifique et que nous l'aimons autant que nous aimons y vivre, en respirer l'air, voir les fleurs et tout, si celle-ci est l'expression, celle qui meurt ne fait qu'exprimer celle qui est éternelle. Quand vous voyez un arbre qui lutte, qui tire, qui essaie de vivre, ça veut dire qu'il y a un arbre quelque part qui n'a pas besoin de faire ça. Quand vous voyez un homme ici qui lutte pour vivre, quelqu'un à l'hôpital ou sur un lit de maladie ou dans un accident qui lutte et que le râle de la mort est dans sa gorge. Il se démène, il pleure, il hurle, car il veut vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un lieu quelque part, qu'il y a un corps qui ne lutte pas et qui ne hurle pas pour ça. Voyez, il ne le fait tout simplement pas. Bon, ces choses, ce sont des choses temporelles qui nous sont faites et qui ne font qu'exprimer qu'il y a un quelque part qui est éternel. Voilà ce que Jésus est parti pour préparer pour nous, celui qui est éternel. Donc, ils ne font qu'exprimer qu'il y en a un autre de la même espèce qui est plus grand parce qu'ils sont de la même espèce. Maintenant, souvenez-vous, la Bible dit, si cette tente où nous habitons sur la terre, si elle périt, qu'elle est détruite, nous en avons une qui nous attend déjà. Exactement comme le petit bébé, ses petits muscles à l'intérieur de la maman et se contracte et se tortille. Et mais juste, voyez, et vous remarquerez qu'une femme, même si elle est vraiment très méchante, mais quand elle devient mère, peu avant la naissance de son bébé, cette femme sera toute douce. Approchez-vous d'elle, vous remarquerez toujours quelque chose. Elle est plus tendre. Pourquoi? C'est qu'il y a un petit esprit angélique qui attend de recevoir ce corps naturel. Aussitôt qu'il naît, le souffle de vie entre en lui, Dieu l'insuffle en lui et il devient une âme vivante. Donc, dès que le bébé naît, alors le corps spirituel est là pour le recevoir. Et alors, quand ce corps descend en terre, ici, comme le bébé qui descend, il y a de même un corps immortel qui attend pour recevoir de nouveau en lui l'esprit. Oh, comme c'est grand! Nous sommes maintenant en Jésus-Christ, amen, des bébés. Des petits-enfants en Christ, des enfants de Dieu attendant la pleine délivrance à la venue de notre Seigneur Jésus, le qui nous prendra avec lui quand le corps mortel revêtira l'immortalité. L'image, toutes ces choses qu'il a faites expriment les choses qui sont à venir, tout comme le corps qu'il vous donne ici, tout comme ce corps qu'il vous a donné pour que vous y habitiez, ne fait qu'exprimer qu'il y en a un plus glorieux encore qui doit venir. Voyez, si nous portons ou si nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et il ne se trouve aucun mal dans celui qui doit venir. Or, dans celui-ci, il y a le mal, la maladie, la mort, le chagrin. C'est ce que j'ai exprimé il n'y a pas longtemps quand j'ai prêché sur la transformation de la parole de Dieu, que ce corps contient le mal. Et toute cette civilisation moderne dans laquelle nous vivons est du diable. Vous ne croyez pas ça? La Bible dit, ce monde, chaque gouvernement, Nous ne voulons pas le croire, mais la Bible déclare clairement que chaque gouvernement, chaque royaume de la terre appartient au diable et est gouverné par le diable. Satan a transporté Jésus là-haut et lui a montré tous les royaumes du monde, ceux qui avaient existé, ceux qui allaient exister et tout. Et Satan a déclaré qu'il lui appartenait et Jésus ne l'a pas contredit parce qu'il est effectivement le Dieu de ce monde. Voyez, et il a dit, je te les donnerai si tu te prosternes et tu m'adores. Voyez, il essayait de les remettre à Jésus sans qu'il y ait de sacrifice. Voyez, il voulait conclure un marché avec lui. Mais le monde avait péché. Alors la peine du péché, c'était la mort, et il fallait qu'il meure. Voilà pourquoi Dieu a été manifesté dans la chair pour pouvoir prendre la mort sur lui et expier ainsi la peine. Il n'y a plus rien à quitter. Ce n'est pas sous réserve. C'est payé entièrement, gratuitement. Toute la dette a été payée. Maintenant, tout cela lui appartient. Et nous sommes les délégués de son royaume, assemblés ici ce soir au nom de Jésus-Christ, notre roi, assis dans les lieux célestes. Maintenant, dans ce monde où nous vivons, l'instruction, je veux vous le prouver, l'instruction, la science, la civilisation et toutes ces choses que nous semblons tellement apprécier aujourd'hui sont de Satan et périront. Vous dites, frère Branham, la civilisation? Oui, monsieur. Cette civilisation est venue par Satan. Genèse 4 le prouve. C'est le fils de Caïn. Vous voyez qui a commencé cette civilisation en construisant des villes, des orgues et tout. La civilisation est venue par la connaissance. La connaissance, c'est ce que le diable a vendu à Ève dans le jardin d'Éden, et c'est ça qui l'a entravé et amené à transgresser le commandement de Dieu. Donc, il y aura une civilisation dans le monde où nous allons, mais ce ne sera pas une civilisation comme celle-ci, car dans cette civilisation-ci, nous avons la maladie, le chagrin, la convoitise, la mort, tout dans cette civilisation va de travers. Mais dans cette civilisation-là, il n'y aura aucune de ces choses. Nous n'aurons pas besoin de la science. D'ailleurs, la science est une perversion de l'originel. Voyez, vous dissociez une molécule pour fissionner des atomes et à faire telle chose pour vous faire sauter. Vous prenez de la poudre à canon, vous tirez sur ceci pour tuer quelque chose. Vous prenez la voiture, vous extrayez l'essence de la terre, la substance de la terre afin de scinder les molécules pour leur permettre d'exploser. Puis vous roulez à 90 000 à l'heure et vous tuez quelqu'un, voyez. Oh, on est tout énervé, on se presse, on se dépêche, on doit foncer, dépasser. Oh, tout ça, c'est du diable. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas d'automobile, d'avion, ni de réalisation scientifique. Non, il n'y aura aucune forme d'instruction du tout. Il y aura une instruction tellement supérieure à celle-ci qu'on ne pensera même plus à celle-ci. Voyez, l'instruction, la civilisation et tout, ceci, ça vient de Satan. Maintenant, vous me direz, frère Branham, pourquoi lisez-vous alors? Voyez, c'est comme de demander pourquoi je porte des vêtements maintenant dans la civilisation qui devait venir, celle qu'il y avait au début. Ils n'avaient pas besoin de vêtements, ils étaient voilés. Ils n'avaient aucune raison de porter des vêtements parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Maintenant, vous, maintenant, il se trouve qu'à l'heure actuelle, étant donné que nous savons que nous sommes nus et que le diable habite ici, alors nous devons porter des vêtements. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Il n'y en avait pas de péché, voyez. Alors, c'est pareil pour ce qui est de la civilisation. Tout à fait, nous lisons, nous écrivons, nous faisons ces choses, mais ne vous adaptez surtout pas à cela. N'en faites jamais votre Dieu, parce que ça, c'est le Dieu du communisme. Vous voyez, ça ne vient pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ se reçoit par la foi, pas parce que vous pouvez prouver scientifiquement, mais parce que vous croyez. Ce soir, dans ce bâtiment, je ne peux pas vous prouver scientifiquement que Dieu existe, mais pourtant, je sais qu'il est ici. Mais c'est ma foi qui le confirme. Abraham n'aurait pas pu prouver scientifiquement qu'il allait avoir un bébé de cette femme, alors qu'elle avait près de 100 ans. Mais sa foi l'a confirmé. Vous voyez, il n'a pas besoin de preuves scientifiques. Eh bien, le médecin aurait dit, ce vieux bonhomme est fou. Il raconte autour de lui qu'il va avoir un bébé de cette femme. Il a 100 ans et elle a 90 ans. Mais voyez, Dieu l'avait dit, on n'a pas besoin de la science, on a besoin de la foi pour croire la parole de Dieu, pas de la science. Donc nos écoles et tout, ça a une aberration. En effet, Dieu n'a jamais dit aller construisez des écoles, ni même ayez des instituts bibliques. Le saviez-vous, il a dit prêcher la parole, c'est tout à fait vrai. Nos systèmes d'éducation nous ont éloignés encore plus de Dieu, plus que tout ce que je connais, c'est vrai, ils nous ont éloignés encore plus de Dieu. Pas de construire des écoles, des hôpitaux et ainsi de suite, c'était pour le monde et pour ce groupe-là, mais je n'ai rien contre faire ces choses. Ils ont leur rôle à jouer, mais ce n'est toujours pas ce qu'il faut. On a beaucoup construit un hôpital, aussi bon qu'il y soit. Ils pratiquent la meilleure médecine. Des milliers de personnes meurent chaque jour. Mais oh là là, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de chagrin. Amen. Il n'y a pas besoin de ces choses du monde. Mais là, nous sommes passés de tout ça aux réalités de Dieu, alors qu'on déploie tant d'efforts au moyen de la science pour essayer de trouver. Et plus nous avançons dans la science, plus nous attirons la mort sur nous. Nous menons un combat perdu d'avance. Alors lâchez ça et par la foi, croyez Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ce soir et acceptez-le. Lui, c'est lui qu'il faut. Qu'est-ce que la science vous prépare? Encore plus de morts, c'est vrai. Les Spoutnik et tout qui sont lancés, toutes les choses pour répandre la mort et tout, d'un bout à l'autre de la terre. Ne regardez pas ça. Levez la tête plus haut et que ça, vers le ciel. Regardez vers l'endroit où Jésus est assis à la droite de Dieu ce soir, étant toujours vivant pour intercéder sur la base de notre confession, c'est-à-dire que nous croyons que sa parole est la vérité. Donc, nous voyons que dans cette vie, il y a le mal sous toutes ses formes. Et donc, la vie, dans la vie à venir, il n'y aura pas ça. Dans celle-ci, il y a convoitise et la maladie et la mort. Parce que qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la maison qui est allée nous préparer. Celle-ci est une maison de pestiférés. Combien savent que c'est une maison de pestiférés? Bien sûr, eh bien, c'est là que vous vivez. Une maison de pestiférés est un endroit où on mettait tous les gens malades. Eh bien, c'est exactement ce que le péché nous a fait. Il nous a mis dans une maison de pestiférés terrestre, où on ne laissait personne d'autre entrer dans la maison de pestiférés parce qu'il y avait toutes sortes de microbes qui flottaient par là et les gens auraient attrapé ces microbes et ils seraient tombés malades à leur tour. Et le péché nous a mis dans la maison de pestiférés du diable. Oh, mais l'autre est appelé la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Je vous ferai sortir de cette maison de pestiférés et je vous amènerai dans la maison de mon Père. Amen. Voilà, c'est ça, vous faire sortir de cette vieille maison de pestiférés terrestre. Il est allé préparer une place, un lieu parfait, où le mal n'existe pas, où la maladie n'existe pas, où la vieillesse n'existe pas, où la mort n'existe pas. C'est un lieu parfait qui vous appelle à cette perfection. Et il vous faut être parfait pour y aller. C'est ce que dit la Bible. Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est un royaume parfait, donc le peuple qui y entre doit être parfait. En effet, vous devez être là, marié à un fils de Dieu parfait, alors vous devez être une épouse parfaite. Donc, comment allez-vous y arriver autrement que par la parole parfaite de Dieu, c'est-à-dire les eaux de séparation qui nous lavent de nos péchés? Amen. C'est vrai, le sang de Jésus-Christ, pensez-y un peu, la parole sanglante, ruisselante, amen. Le sang, la parole de Dieu qui saigne pour laver l'épouse dans ce sang. Amen. Oui, monsieur, elle est parfaite, vierge, pure, elle n'a même jamais péché. Amen. Elle a été prise au piège là-dedans, voyez. Voilà la maison du Père qu'il est allé préparer. Celle-ci est venue par le sexe à cause de la chute et devra tomber avec la chute. On aura beau rafistoler cette vieille chose, elle va tomber de toute manière. Elle est fichue parce qu'elle est condamnée, parce que Dieu l'a dit. Pour elle, c'est fini. Dieu va la détruire. Il l'a dit, la chose sera entièrement renouvelée. Vous croyez ça? Au commencement, à la naissance du monde, quand Dieu a d'abord retiré les eaux de la terre, comme il l'a fait pour les eaux dans le sein de la mer, un monde est né. Oui, et les peuples ont commencé à y vivre après que Dieu les y ait placés. Et là, ils se sont mis à pécher. Il a été baptisé par immersion à l'époque de Noé. Ensuite, il a été sanctifié par le sang du Créateur qui a coulé sur lui. Et maintenant, c'est de cette manière que vous êtes venus, par la justification en croyant Dieu. Vous avez été baptisés en vue du repentir et pour la rémission de vos péchés. Vous avez confessé vos péchés devant Dieu et il vous les a pardonnés. Et vous avez été baptisés pour montrer que vous avez été pardonné, que vous avez confessé aux gens et montré au monde que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous. Et vous, il a pris votre place et maintenant vous êtes à sa place, à lui. Il est devenu vous pour que vous puissiez devenir lui. Ensuite, la puissance de sanctification de Dieu a purifié votre vie et en a ôté toutes les habitudes. Avant, vous fumiez, vous buviez, vous faisiez des choses qui ne sont pas bien, vous disiez des mensonges et tout. Et alors, la puissance de sanctification du sang de Jésus-Christ entre dans votre vie et ôte de vous toutes ces choses. Si vous arrivez de dire quelque chose qui n'est pas faux. Vous vous dépêchez de dire un instant, pardonne-moi, je ne voulais pas le dire comme ça, vous voyez, le diable a avait préparé là un piège, mais si vous êtes un vrai chrétien, vous avez la grâce qu'il faut pour vous reprendre. Dire, j'ai eu tort. Et il dit, maintenant, la chose suivante que vous avez reçue, c'est le baptême du Saint-Esprit de feu. Or, Dieu, une fois que ce millénium sera terminé, Dieu va donner au monde un baptême de feu. Ça va faire tout exploser. Les cieux et la terre seront en feu. C'est ce que Pierre a dit. Cette chose aura un baptême de feu. Elle sera entièrement renouvelée. Et alors, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est là que là, là où la justice habitera, voilà où nous en sommes. Nous qui étions des êtres mortels, des êtres temporels, nous sommes devenus des êtres éternels. Car la parole de Dieu a illuminé notre âme et que nous sommes devenus fils et filles de Dieu avec les attributs, le gène de Dieu en nous, par lesquels nous sommes fils et filles du Père, de Dieu qui est dans le ciel, et nous crions « Abba, Père, mon Dieu, dans la maison de mon Père ». Donc ce vieux monde doit subir sa chute parce qu'il est venu par le sexe, il est venu par la désobéissance au commencement et nous sommes nés ici par le sexe à cause de la chute. Il doit de même se diriger tout droit vers la chute. Mais celui qui est en train de vous préparer maintenant, il ne peut pas tomber parce qu'il le fait en conséquence. Je suis allé. Qu'en serait-il s'il fallait que nous serions dans ce genre de corps? N'êtes-vous pas heureux que la mort existe? C'est étrange, n'est-ce pas? Mais bon, disons par exemple, il y a quelques années, j'étais un petit garçon et maintenant je suis un homme d'âge mûr. J'ai un ami ici, juste là, Monsieur Dark, qui a eu 93 ans il y a quelques jours. Regardez-le maintenant, dans 40 ou 45 ans, ce serait moi. Maintenant, rajoutez-lui encore 40 ans. Vous iriez où? La seule. Je suis content qu'il y ait quelque chose pour nous faire sortir de cette maison de pestiférés. Il y a une porte ouverte et elle s'appelle la mort. Jésus se tient à cette porte. Amen. Il me guidera pour traverser le fleuve. Il me fera franchir cette porte. Il y a une grande porte là-bas qui s'appelle la mort. Et à chaque battement de cœur, vous vous en rapprochez d'un battement. Et un jour, il faudra que j'arrive à cette porte. Il vous faudra, vous aussi, y arriver. Mais quand j'y arriverai, je ne veux pas être un lâche. Je ne veux pas pousser des cris et reculer. Je veux arriver à cette porte, m'envelopper des vêtements de sa justice à lui, pas la mienne, mais la sienne. C'est ce qui me fait savoir que je le connais dans la puissance de sa résurrection. Alors, quand il l'appellera, je sortirai d'entre les morts pour être avec lui, libéré de cette maison de pestiférés, peu importe où ce corps tombera, où il atterrira, quoi qu'il en soit, j'en sortirai un jour, parce qu'il me l'a promis. Et nous le croyons, oui, monsieur, il est en train d'en préparer un qui ne peut pas tomber. Remarquez la maman qui attend un enfant sur la terre aujourd'hui. Voyez comme le corps de cette mère éprouve le besoin de certaines choses. Il est réclame. Je m'adresse, je suppose, et j'espère à tous les adultes qui comprendront. La mère, à la naissance du bébé, s'il y a quelque chose qui manque dans son corps, elle commence à éprouver le besoin de certaines choses. Elle les réclame. Regardez comme un papa. Je me souviens, nous avons été élevés dans une famille vraiment très pauvre et nous n'avions presque rien mangé quand nous étions gamins. Vous êtes nombreux à avoir enduré la même chose. Donc, de voir qu'avant le moment où les bébés allaient naître, maman éprouvait un besoin d'une certaine chose. Elle le réclamait et papa faisait des pieds et des mains pour lui procurer ça. Voyez, il s'agit de son corps, du calcium et des autres choses dont son corps et des vitamines dont elle a besoin. Le petit est en train de se former, vous voyez, et il réclame certaines choses, des aliments pour cet enfant qui va venir, et de voir les efforts des parents pour se procurer ça, afin que le bébé naisse aussi parfait et heureux que possible. Vous le voyez, que vos parents seront prêts à faire ça lorsqu'il y a un besoin. La mère en témoigne. Vous voyez, son organisme est fait comme ça. Vous comprenez? C'est que lorsqu'il y a un besoin ici pour l'enfant qui va venir, la mère se met à le réclamer. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Pourquoi est-ce que nous faisons des réunions de réveil? Pourquoi est-ce que nous nous rassemblons? Pourquoi est-ce que je suis toujours en train de réprimander les gens? Pourquoi est-ce que je vous demande, à vous, les femmes pentecôtistes, de cesser de porter du maquillage, de vous maquiller, de vous couper les cheveux et de ce genre de choses? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce n'était pas la manière de faire de la Pentecôte autrefois. La véritable manière biblique, c'est de ne pas faire ces choses-là. Vous qui portez des shorts et des vêtements d'hommes, savez-vous que la Bible dit que c'est une abomination, ça, pour Dieu? Mais nous le permettons. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit pousse constamment des cris? Il sait qu'il y a là quelque chose qui manque. Il faut que nous parvenions à la pleine stature de Jésus-Christ. Il faut que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Il faut que nous nous conduisions comme des enfants de Dieu. Il y a longtemps, on racontait une petite histoire. J'ai remarqué qu'il y a un frère de couleur assis à l'arrière, dans le sud. Autrefois, on vendait des esclaves. C'était à l'époque où il y avait des esclaves là-bas, du temps de l'esclavage, avant la proclamation d'émancipation. Les gens passaient par là et les achetaient des gens, comme le ferait un marchand de voitures d'occasion. On rédigeait un acte de vente et on vendait ces êtres humains comme s'ils étaient des voitures d'occasion. On vous remettait un acte de vente comme vous vous en portiez acquéreur. Un jour, un acheteur est passé, un marchand, il faisait le tour de ces grandes plantations pour acheter des esclaves. Il est donc arrivé à une certaine grande plantation et il y avait beaucoup d'esclaves et il avait voulu voir combien il y en avait. Ils étaient tous là dehors en train de travailler. Ils étaient tristes. Ils étaient loin de chez eux. Ils venaient d'Afrique. On les avait amenés ici. Les Boers les avaient amenés ici. Ils les avaient vendus comme esclaves. Et donc, ils étaient tristes. Ils savaient qu'ils ne retourneraient jamais chez eux. Ils allaient passer leur vie dans ce pays et y mourir. Ils avaient des fouets. Ils les fouettaient. Ils appartenaient à leur propriétaire. Alors, ils faisaient d'eux ce qu'ils voulaient. S'ils le tuaient, ils le tuaient. N'importe quoi, ils le faisaient. C'est tout. C'est ça, l'esclavage, comme ce qu'Israël a connu. De même que beaucoup de nations qui ont été réduites en esclavage. Ils s'emparaient de ces pauvres esclaves, ils ne faisaient que servir, ils pleuraient, vous savez, tout le temps, ils étaient tristes. Mais ils ont remarqué qu'un de ces esclaves, un jeune homme qui bombait le torse et qui gardait la tête haute comme ça, lui, on n'avait jamais à le fouetter, lui, on n'avait jamais à lui dire ce qu'il avait à faire. Alors son marchand a dit, je vais acheter cet esclave-là. Il a dit, il n'est pas à vendre, c'est lui que j'aimerais acheter. Non, il n'est pas à vendre. Est-ce qu'il a le chef de tous les autres? Non, il a dit, il n'est pas le chef, il est un esclave. Eh bien, peut-être que vous lui donnez autre chose à manger. Qu'est-ce que vous donnez aux autres? Non, ils mangent tous ensemble là-bas à la cantine. Qu'est-ce qui rend ce garçon si différent des autres? Il dit, voilà, moi aussi, pendant quelque temps, je me suis posé cette question. Mais ce garçon, bien qu'il soit un étranger venu d'Afrique, là-bas en Afrique, son père est le roi de sa tribu. Eh bien, qu'il soit un étranger, qu'il soit loin de chez lui, il se conduit comme un fils de roi. Il sait que là-bas, au loin, dans un pays lointain, son père est le roi de la tribu. Et alors, il se conduit bien parce qu'il sait qu'il est un fils de roi. Oh, frère, sœur, vous et moi, dans ce monde où nous vivons, conduisons-nous comme des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des étrangers ici, mais notre comportement devrait correspondre au commandement de Dieu, car nous sommes fils et filles de Dieu. Notre comportement, nous devrions nous comporter et agir et tout conformément aux lois que Dieu a établies. Et c'est une abomination pour une femme de porter un vêtement d'homme. C'est mal et c'est un péché pour elle de se couper les cheveux. La Bible dit, il n'est même pas convenable qu'elle prie. Vous direz, qu'en est-il de ceci? Quelqu'un s'en est pris à moi. Un ministre bien en vue, il n'y a pas longtemps, il a dit, frère Barnum, venez, je voudrais vous imposer les mains. Il a dit, vous allez détruire votre ministère. J'ai dit, comment ça? À force de réprimander les gens comme ça. Ce que je dis, c'est là, je crois ça. Il a dit, moi aussi, je suis pentecôtiste, je crois que les femmes ne devraient pas avoir les cheveux courts, qu'elles ne devraient pas porter de maquillage, ni agir comme elles le font, se maquiller. Il a dit, elles ne devraient pas faire ça. Mais il a dit, Dieu vous a appelé à prier pour les malades. J'ai dit, il m'a appelé à prêcher l'évangile. Oui, il a dit, je crois à ça. Mais il a dit, c'est ça que vous pensez. J'ai dit, oui, regardez un peu ce que vous avez. Tous ces grands programmes, les émissions télévisées et tout le reste, moi, je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu. C'est vrai. J'ai dit, je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu. Vous allez détruire votre ministère. Tout ministère que la parole de Dieu peut détruire, mérite d'être détruit. C'est vrai. Certainement. C'est exact. Il a dit, eh bien, vous allez le détruire. J'ai dit, mais alors, qui le dira? Vous voyez, il faut bien que quelqu'un le dise. Il faut bien que quelqu'un prenne position pour la vérité, même si elle fait mal. Et mes amis, nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons que nous allons au ciel, le Saint-Esprit lui-même nous rendra conformes à la parole de Dieu. Il dit, vous savez ce que vous devriez faire? Il a dit, les gens croient que vous êtes prophète. Il a dit, vous devriez enseigner à ces femmes comment recevoir des dons de prophétie et ce genre de choses-là, des choses bien supérieures au lieu de ces petites choses. J'ai dit, comment vais-je pouvoir leur enseigner la job alors qu'elles ne veulent même pas apprendre leur ABC, alors qu'elles ne veulent même pas faire ce qui est élémentaire. Vous voyez ce qui est naturel, comme leur parler des choses supérieures, alors que vous ne voulez même pas commencer par vous voulez atteindre le sommet de l'échelle avant d'avoir posé le pied sur le premier échelon. C'est pour ça que vous tombez. Commencez tout en bas et grimpez au fur et à mesure que Dieu vous conduit plus haut, alliez votre vie et conformez-vous en tout point à la parole de Dieu. Vous avez destiné à accomplir. Maintenant, pensez comment Dieu, nous devrions nous comporter et agir comme des chrétiens. Notre conduite devrait être celle de chrétiens parce qu'ici, nous sommes des étrangers. Ici, ce n'est pas notre demeure. Non, nous avons seulement été placés ici temporairement. Nous devrons partir chacun de nous ce soir. Maintenant, pensez-y. Si Dieu, dans sa miséricorde, fait en sorte que la mère, avant que le petit bébé naisse, il réclame certaines vitamines dont il a besoin, alors Alors, les paroles de la mère vont exprimer ça. Papa, je voudrais du cantaloup ou de la pastèque. Je voudrais telle ou telle chose. Eh bien, il fera tout ce qu'il peut pour lui procurer cela parce qu'il sait qu'il tient à ce qu'un enfant naisse aussi parfait que possible. Voyez? Alors, il fera tout en son pouvoir pour le lui procurer. Combien plus est-il en son pouvoir à lui de procurer cela? Lui qui est un créateur, maintenant pensez combien il est en son pouvoir à lui de nous préparer un corps dans lequel vivre, un corps semblable à son corps glorieux. Si nous voulons vivre, il y a quelque chose en nous qui réclame, qui désire vivre. Il y a quelque chose en nous qui réclame, qui désire faire ce qui est bien. Alors Dieu appellera sur l'estrade ou la chair quelqu'un qui prêchera la vérité absolue. Pourquoi? Vous voyez par là? Alors si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous vous mettez à crier, « Oh Dieu, enlève cela de moi, circoncis-moi de ceci, enlève ces choses de moi. Pourquoi? C'est nécessaire pour votre demeure céleste vers laquelle vous allez, celle qui est allée préparer là-bas. Il faut que vous soyez une véritable épouse, parole de Christ. Il y a quelques jours, j'ai prêché un soir sur le sacrifice à l'époque de l'expiation. J'ai prêché sur le seul lieu où Dieu, la seule église où Dieu rencontrera l'homme, et c'est, il a dit que c'est dans le lieu où il a mis son nom. J'ai dit, je ne l'ai rencontré dans aucun autre lieu que dans le lieu là, porte où j'ai mis mon nom. Or, il ne vous rencontrera pas à la porte méthodiste, à la porte baptiste, à la porte pentecôtiste, ni à aucune de celles-là, mais c'est dans son fils qu'il a mis son nom. Il a dit, je suis venu au nom de mon père. Tout enfant vient sous le nom de son père. Je suis venu sous le nom de Branham, parce que mon père était un Branham. Et vous êtes venu sous le nom que vous portez, parce que c'était le nom de votre père. Et Jésus, le fils, est venu au nom du père, et il a dit qu'il a mis son nom dans cette porte où j'ai mis mon nom. C'est ça, le sacrifice. Et en Jésus-Christ, voilà le seul lieu où vous ne pourrez jamais communier avec Dieu et l'adorer. Vous dites, eh bien, je suis membre de l'Église. Ça ne change absolument rien. Il faut que vous soyez en Christ. Un certain ministre d'une dénomination me disait l'autre soir, il disait, « Monsieur Branham, écoutez, Jésus a dit, quiconque croit, la Bible dit, quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est né de l'Esprit de Dieu. » J'ai dit, « La Bible ne dit-elle pas aussi que nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit? » Voyez, on ne peut pas faire mentir la Bible. Il faut que le lien se fasse d'un bout à l'autre. Donc, il faut absolument que vous soyez né de nouveau, que vous ayez en vous le Saint-Esprit qui rend témoignage de cela, qui vous fait savoir à vous qu'il est le Fils de Dieu. Et alors, si vous êtes cela et que vous en faites partie, si vous êtes un enfant de Dieu dans la parole de Dieu, alors comment pouvez-vous nier la parole? Comment le Saint-Esprit peut-il vous faire croire un credo que vous devez faire quelque chose comme ceci alors que la Bible déclare autre chose? Il nous faut adhérer à une église et faire ceci ou faire cela alors que la Bible vous dit clairement ce qu'il vous faut faire. Voyez, quand vous voyez cela, alors, vous vous lancez tête baissée là-dedans. À ce moment-là, vous êtes en harmonie avec elle. Vous continuez à monter toujours plus haut et la croissance se fait comme un germe qui entre dans le sein d'une femme avec l'ovule. Alors, quand ce petit ovule commence à se développer et qu'il commence à produire des germes, il ne produit pas un genre humain. Et puis, un germe de chien et ensuite un germe de vache. Il ne produit que des germes humains. Et quand un enfant de Dieu, quand cette semence prédestinée n'est pas de mise d'employer ce mot, mais c'est Dieu, c'est la Bible de Dieu. La préscience de Dieu peut prédestiner, faire tout concourir à son nom. Quand cette semence prédestinée, vous qui deviez exister quand Dieu vous a appelé et que cet aiglon, cette semence qui était à l'intérieur, elle a entendu la parole de Dieu, il s'édifiera là-dessus, parole sur parole, sur parole, sur parole. Elle ne se mélangera avec aucun credo. Remarquez, chaque jour, à l'intérieur de ses portes, il devait manger du nouveau pain cachère. Et pendant les 7 jours, il ne se trouvait aucun levain parmi eux. Pas vrai, les 7 âges de l'Église, donc rien qui ne soit sans levain, aucun credo, aucun ajout. Ce doit être du pain absolument sans levain. Il ne se trouvera parmi vous aucun levain du tout, si ce n'est le levain, la parole elle-même et elle seule. Et cette parole est Dieu, et Dieu a été fait chair dans la personne de Jésus-Christ, et c'est lui qui la porte. Voici la porte où je vous rencontre pour que vous y adoriez. Quand vous suivez les commandements de Dieu, c'est pourquoi ce soir, si vous êtes simplement venu dire « J'offre ma vie à Jésus-Christ » et que vous n'avez encore jamais reçu le Saint-Esprit, entrez en lui. Il faut que vous le fassiez. Il faut que vous croissiez en lui. Demandez à Dieu d'entasser en vous la parole sur parole comme ça jusqu'à ce que vous parveniez à la pleine stature d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu. Acceptez les choses du monde. Un Jean dit « Si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. » On vous a trompé. Vous avez l'amour du monde là et à cause de ça, vous vous êtes laissé tromper. Le diable vous a trompé en entendant là des choses et en montrant, vous ne pouvez pas. Eh bien, c'est ce que vous ne pouvez pas retrancher de la Bible, une seule parole de Dieu. Quelle a été la cause du premier péché? Ce n'est pas à cause du gros mensonge très évident, mais c'est parce qu'Ève a eu une fausse conception que Satan lui a présentée d'une seule parole. Une seule parole a rompu la chaîne. Une seule parole qu'on a refusé de recevoir. Ça, c'était au commencement de la Bible. Jésus est venu au milieu de la Bible et il a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est-à-dire de la parole de Dieu dans sa totalité. Croyez-vous ça? C'est la révélation qui le révèle, lui. La parole de Dieu dans sa totalité. Ensuite, dans Apocalypse 22, Jésus est venu à Jean sur l'île de Patmos et Jésus, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Voyez, quiconque retranchera une seule parole de ceci ou y ajoutera une seule parole, je retrancherai sa part du livre de vie. Il ne suffit pas de dire, eh bien, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est très bien, mais ajoutez-y tout le reste. Vous dites, j'ai été justifié, j'ai tendu la main au ministre. Je crois en Jésus-Christ, alors vous devez naître de nouveau. Il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Voyez, continuez simplement à ajouter au fur et à mesure que vous avancez et vous croissez pour parvenir à la stature d'un fils ou d'une fille de Dieu. Oh là là, Dieu qui est capable de nous préparer et de nous fournir ce que nous réclamons, ce besoin qu'il y a dans votre vie, ce désir de voir quelque chose. Combien ici veulent plus de Dieu? Eh bien, ça prouve qu'il y en a plus pour vous. Voyez, vous le réclamez, c'est un besoin. Vos petites douleurs d'enfantement se font sentir. Voyez, vous avez besoin de plus pour que nous puissions être heureux et libre et parfait, c'est ce qu'il nous faut être, comme le petit germe de vie qui est dans le sein de Dieu, tout comme le germe de vie qui est dans le sein de la mère. Dieu grandit et il est allé nous préparer cette place, ce lieu éternel avec lui, pas un lieu qui soit une maison de pestiférés avec la mort, le péché, l'adultère et la souillure du monde qu'il y a ici. Si vos pensées sont tournées vers ces choses, ça montre que votre esprit n'est jamais entré en contact avec Dieu. Vous voyez, vous êtes emballé, c'est tout. Vous avez une illusion mentale, vous vous contentez de à l'Église et vous dites, eh bien, je vais partir de ceci, ma mère en faisait partie, c'était peut-être bien du temps de votre mère, mais nous vivons dans une autre époque. Le message de Wesley n'aurait jamais, Wesley ne pouvait pas s'en tenir seulement à Luther. Luther croyait à la justification, mais Wesley avait la sanctification. Les pentecôtistes sont arrivés. Eux ne pouvaient pas s'en tenir seulement à la justification et à la sanctification. Pour eux, c'était le temps de la restauration des dons. Maintenant, nous avançons à partir de là. Voyez, les trois étapes de la plante qui grandit. Au départ, c'est une petite pousse. Luther est apparu, sorti à la réforme. Très bien, c'était la tige. J'ai observé la nature. Dieu et la nature agissent en continuité parce que Dieu est dans la nature. Voyez, ensuite est arrivé les grettes, le pollen, l'âge méthodiste, puis sont arrivés les pentecôtistes. Oh là là, c'est tellement parfait. Voyez, tout comme un grain de blé ressemble à du blé et à un grain de blé parfait. Ouvrez-le donc. Il n'y a pas de blé du tout dedans. C'est la balle, un porteur du blé. Mais la vie là continue à faire son œuvre. Voyez, ceux qui étaient là à l'âge de Luther ont accepté Luther. Cette vie est arrivée là, mais ça s'est transformé en dénomination. C'est bien vite devenu une dénomination destinée à être brûlée. Voyez, la tige se dessèche. Elle n'est qu'un porteur. Certains cherchent encore à rester dans cette vieille tige qui servait de porteur. Ils ne savent rien de Dieu. Ils sont morts. Ils disent, eh bien, regardez, nous sommes une feuille. Nous avons eu Luther, c'est vrai. Mais regardez ce qu'il en est maintenant. Voyez, nous étions méthodistes. Et même, nous étions pentecôtistes. Mais regardez la Pentecôte, comme elle devient froide et formaliste. Tous, ils s'éloignent. Voyez, qu'est-ce que c'est? C'est un porteur de la véritable semence. Tous ceux-là, c'était des porteurs. Mais ils ont pris le chemin de la dénomination. Vous dites, je suis pentecôtiste. Ça, pour Dieu, ça ne veut rien dire de plus que si vous disiez que vous étiez catholique romain ou juif ou n'importe quoi d'autre. Il faut que vous naissiez de cette vie qui est passée dans ce porteur-là. Ne restez pas dans la tige, ne restez pas dans la semence. Continuez à avancer jusqu'à vous soyez parvenu à la partie parfaite. Maintenant, souvenez-vous, dans toutes les réformes que nous avons eues, tous les luthériens et tous les autres, au bout de 3 ans, ils deviennent une organisation. C'est vrai, chaque réveil a produit une organisation au bout de 3 ans. Pensez un peu depuis combien de temps celui-ci dure, 20 ans et quelques paires d'organisations. Pourquoi? C'est la semence qui arrive et qui se forme sous la balle, comme ceci. Elle repose là. Maintenant, elle doit rester dans la présence du Fils pour mûrir et devenir le grain glorieux, semblable à celui qu'il y a eu au début. La véritable Église qui est tombée en terre au début est en train de revenir en montant de la tige afin de produire une autre Église au moment où la moissonneuse viendra la prendre. La vie qui a été déposée dans Luther, la vie qui a été déposée dans les méthodistes, la vie qui a été déposée dans les pentecôtistes, entrera dans le grain. Elle entrera dans tout le grain. Elle sortira pour former le corps parfait de Jésus-Christ, tout comme le soleil qui se lève le matin. On ne peut pas observer quelque chose dans la nature sans que ça témoigne de Dieu. On ne peut même pas avoir besoin de la Bible pour savoir qu'il y a un Dieu, le petit soleil qui naît, un petit bébé tout faible. Vers les 7 heures, il part pour l'école. Et à 10 heures ou 11 heures, il en sort. À midi, il est en toute sa force. À 3 heures de l'après-midi, il commence à se faire. faire vieux à 7 ou 8, à 5 heures ou 6 heures de l'après-midi, ses épaules commencent à tomber, il meurt. Est-ce la fin pour lui? Non, il ressuscite de nouveau le lendemain matin. La vie, la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Regardez les feuilles qui poussent sous les arbres. Une belle feuille saine pousse, elle donne de l'ombre, elle produit son fruit. Ensuite, voilà déjà l'automne qui arrive, qui atteint. C'est la mort qui retourne dans les racines, dans le sol. Et est-ce la fin pour elle? Le printemps suivant, elle revient de nouveau pour rendre témoignage. Oh, c'est là une vie perpétuelle. Mais frères et sœurs, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle grâce à cet être glorieux qui est venu et qui est reparti, qui a le pouvoir de nous préparer un corps. Et ces douleurs de croissance que nous éprouvons, comme vous, les femmes, que vous sentez condamnées à cause de ce que vous faites, vous, les hommes, qui vous accrochez à des doctrines de séminaire et tout, vous aimez bien dire, tous dire, je récite tel credo, je fais telle chose, mais il se passe quelque chose là, au fond de vous. Quand vous voyez les yeux des aveugles s'ouvrir, les sourds, les aveugles, toutes ces choses qui ont été promises, vous voyez la parole prêchée dans toute sa puissance, vous voyez une prostituée, une fille des rues devenir une dame, vous voyez un ivrogne sortir de là et devenir une véritable sainte de Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose, une vie là-dedans. Vous commencez alors à sentir, eh bien, peut-être que je ne devrais pas faire ça, mais vous voyez, en fait, c'est ce qu'il y a, quelque chose dans votre cœur, là-bas, a besoin. Venez, mais Dieu a ici, il y a des vitamines qu'il faut pour chaque parcelle de ce corps de Jésus. Jésus est allé préparer la place dans le sein de Dieu. Oui, monsieur, un petit germe, un fils de Dieu, un petit-fils, une petite fille de Dieu. Jésus m'a demandé qu'une seule chose dans la prière qu'il a adressée au Père. Vous savez ce que c'était? Une seule chose, après tous les sacrifices qu'il avait consentis ici sur terre, la vie qu'il avait vécue, le chemin où il avait marché, il a demandé une seule chose, que là où je suis, il soit aussi. Il a demandé la communion avec nous. C'est la seule chose qu'il a demandé au Père dans la prière, votre compagnie pour toujours. Si vous voulez le lire, c'est dans Jean 17, le verset 24. Alors, combien est-ce que nous devrions le désirer, s'il le désire? Maintenant, écoutez, si vous êtes réellement né de l'Esprit de Dieu, ça, c'est tout ce qui compte pour vous. Vous voyez, ce n'est pas un livre de règlement. Vous ne vivez pas pour les lois du tout. Vous vivez par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu. J'ai souvent dit ceci en tant que missionnaire, je suis amené à partir outre-mer. Qu'en serait-il si je faisais venir ma femme et mes enfants et que je leur dise, maintenant les enfants, écoutez-moi bien, Madame Braham, toi, écoute-moi bien. C'est moi ton mari, tu n'auras pas d'autre mari en mon absence. Si tu le fais, je t'arracherai la peau à mon retour. Ah, voyez, en tapant du pied. Les enfants, vous m'avez bien entendu? Oui, papa, oui, papa. Gare à vous, si j'apprends que vous avez désobéi une seule fois, voyez-vous, ce serait tout un foyer, ce n'est pas ça. Et maintenant, si elle dit à son tour, « Bon, monsieur, tu as terminé, maintenant c'est à moi que je veux dire quelque chose. » Monsieur Branham, je suis ta femme légitime. Toi non plus, tu n'auras pas d'autre petite amie pendant ton déplacement. Ce serait tout un foyer, ça, n'est-ce pas? Ce serait vraiment quelque chose. Ce n'est pas ce que nous faisons. Je l'aime et elle-même. Quand elle sait que je vais partir, elle sait que je ne pars pas, au moins que le Seigneur m'ait appelé à partir. Nous nous mettons à genoux, nous rassemblons les enfants et nous prions. Je dis, Dieu bien-aimé, prends soin de ma petite campagne, de mes enfants. Et eux, ils disent, oh Dieu, prends soin de papa pendant notre absence, pendant son absence et alors quand nous partons. Mais si vraiment je faisais quelque chose de mal là-bas, si vraiment je commettais une transgression, je faisais quelque chose de mal. Et si à mon retour, j'allais voir ma pauvre petite femme et qui s'est tenue là, je regardais son visage et qui commence à se rider et ses cheveux qui grisonnent, je m'avancerais vers elle, je lui dirais, chérie, il faut que je te dise quelque chose. Tu sais que je t'aime, bien sûr, Bill, je sais que tu m'aimes. Je vais te dire ce que j'ai fait. J'ai ramené une fille à la maison. Je dirais, je te demande pardon d'avoir fait ça. Je crois qu'elle me pardonnerait. Je le crois vraiment. Mais est-ce que je le ferais? Quand je regarde là, que je vois ses cheveux qui grisonnent et que je sais qu'elle a fait écran entre moi et le public et je sais à quel point elle a été une épouse dévouée, est-ce que je pourrais faire ça? Je préférerais mourir plutôt que de la faire souffrir. Et ça, avec un amour filéo pour ma femme, combien plus grand est mon amour agapao pour Dieu? Et je ne ferais rien qui puisse la faire souffrir. Bien sûr que non. Je l'aime. Je veux faire tout ce qu'il veut que je fasse. Je veux m'aligner sur chaque parole qu'il a prononcée, quoi que le monde dise. Eux, de toute façon, ils n'y croiront pas. Je veux savoir ce que lui m'a dit de faire. Et s'il me manque quelque chose, je désire qu'il me donne et vivre pour lui en se gardant du monde. Ce vieux corps terrestre ici, je vais vous dire une chose. Ce corps terrestre auquel vous attachez tant d'importance, vous prenez exemple sur Hollywood, vous en êtes si proche, ce ne sera pas là encore très long. Vous vous souvenez, vous avez entendu la prophétie, vous voyez que le Seigneur m'a donné, elle va sombrer. Oui, monsieur, remarquez, elle sombrera. Observez seulement. Or, il ne m'a pas encore jamais rien dit de faux, et je le maintiendrai devant quiconque a quelque chose à dire à ce sujet. Je ne sais pas quand, ni où, mais elle est fichue. Le jugement est suspendu au-dessus d'elle. Il n'y a pas de rédemption pour elle. C'est déjà passé, voyez? Maintenant, remarquez ceci. Vivre pour lui en se gardant du monde. Maintenant, observez. Vous regardez la télévision, certaines d'entre vous, les sœurs, et vous allez là, quelque part, et vous avez ce désir. Vous, les jeunes femmes, vous êtes jeunes, je le sais, mais vous êtes chrétiennes, voyez? Vous êtes différentes. Vous n'avez pas à être comme le monde. vous aimez le monde. Pas seulement vous, les jeunes, certains d'entre vous qui êtes plus âgés, voyez, eh bien, qu'est-ce qui produit ça, voyez? Vous regardez la télévision, vous allez au magasin, vous voyez ces espèces de petits vêtements que portent les femmes qui sont indécents. Vous savez ce qui va arriver au jour du jugement. Vous avez beau être aussi fidèle à votre mari qu'on peut l'être. Pourtant, au jour du jugement, vous aurez à répondre d'avoir commis adultère. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. À qui la faute? À vous? Voyez? Vous vous êtes exhibé comme ça, en short et en pantalon. Il n'y a pas longtemps, une femme m'a dit, « Je ne porte pas de short, frère Branham. Je remercie le Seigneur pour ça. Je porte des pantalons. » J'ai dit, « C'est pire. » C'est pire, c'est vrai. Il n'y a pratiquement plus moyen pour une femme d'acheter une robe. Elle a dit, une femme a dit, eh bien, vous avez dit la vérité, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen d'en acheter, mais on vend encore du tissu et des machines à coudre. Vous voyez, vous n'avez donc aucune excuse, vous voyez. On voit par là, sœur, je suis votre frère et je suis un serviteur de Christ qui devra répondre au tribunal du jugement de ce que je dis ici ce soir, voyez. Vous serez reconnu coupable d'adultère parce que l'amour de Dieu s'est échappé de votre cœur. Vous allez encore à l'église, peut-être que vous dansez encore dans l'esprit, peut-être que vous parlez encore en langue, et ces choses-là, c'est bien, mais encore là, ce n'est pas ce qu'il faut. Non, monsieur, souvenez-vous, la Bible dit dans les derniers jours, il viendra de faux Christ, pas de faux Jésus. Ça, les gens ne l'accepteraient pas, mais de faux Christ, de faux oints. Ils sont vraiment oints de l'esprit, du Saint-Esprit, et pourtant, ils sont faux, voyez. Vous êtes deux, vous êtes trois personnes. À l'extérieur, il y a le corps, vous avez cinq sens qui vous permettent d'entrer en contact avec votre demeure terrestre. À l'intérieur, il y a un esprit. Là se trouvent cinq sens, l'amour, la conscience, et ainsi de suite, par lesquels vous entrez en contact. Mais à l'intérieur de ça, il y a l'âme. Souvenez-vous, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. La même pluie qui fait pousser le grain de blé fait aussi pousser le gratteron. Voyez, qu'est-ce que c'est? À l'intérieur de cette semence, il y a une nature, et cette nature se manifeste, elle se manifeste. Elle peut se trouver dans la même champ, juste à côté de la mauvaise herbe. La mauvaise herbe et le blé sont là ensemble et se réjouissent autant l'un que l'autre. Il a la tête penchée, il meurt de soif. Quand la pluie arrive, le gratteron peut jubiler aussi fort que le blé. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, voyez? Chrétien, je ne vous reverrai peut-être jamais. Voyez, ça fait des années que je n'étais pas venu ici. Je ne vous reverrai peut-être jamais. Alignez-vous sur la parole de Dieu. Regardez dans le miroir. C'est comme une fois ce petit garçon qui avait vécu à la campagne, qui n'avait jamais vu un miroir. Il est arrivé chez sa tante et il a commencé à monter les marches. Il a vu un miroir, il a vu un petit garçon dans le miroir. Il a continué à monter tout en regardant. Et il a fait signe de la main et le petit garçon a fait signe de la main. Il a continué à regarder. Il ne s'était jamais vu dans un miroir. Et alors, quand il est arrivé tout près, il s'est retourné, il a dit, « Maman, c'est moi. » À quoi ressemblez-vous dans le miroir de Dieu? Est-ce qu'il reflète une fille ou un fils de Dieu? Y a-t-il quelque chose alors que vous entendez cela qui vous fait haïr l'homme qui le dit? Il y a quelque chose qui vous attire et qui vous fait dire, je sais que cet homme a raison parce que c'est dans l'Écriture. Alors ce sont là les vitamines nécessaires à ce corps qui est destiné à être là-bas, une maison dont l'autre aura besoin quand vous arriverez là-bas. Voyez, cette maison-ci, si nous avons porté celle qui est terrestre, alors souvenez-vous, nous attachons tant d'importance à ce corps, nous lui mettons tellement de vêtements, nous faisons tellement de choses qui ne sont pas nécessaires, rechange après rechange après rechange, et toutes ces choses, et oh, tout le monde fait pareil. Il suffit que quelqu'un se mette à faire quelque chose. Peignez vos marches en rouge, et vous verrez les jaunes peindre leurs marches en rouge. Vous passez d'une Chevrolet à une Ford, et ils ne peuvent pas supporter ça, c'est l'époque de l'imitation. Il suffit qu'une femme vienne à l'église en portant un certain genre de chapeau, et vous verrez toutes les femmes se procurer la même chose, surtout si les femmes du pasteur, vous voyez, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est l'époque de l'imitation, frère, ça devrait être l'époque de l'imitation, toutes ces choses arrivent dans un but, peu m'importe si mon veston est assorti à mon pantalon, et j'ai du mal, ma femme ou ma belle-fille, quelqu'un doit me dire quel genre de cravate il faut porter avec ça, mais je ne me soucie pas de les assortir, ce que je veux, c'est que mon expérience s'accorde avec la parole de Dieu, c'est ça qui compte, parce que c'est là que j'ai l'intention de vivre. Pas au coin là-bas avec les Jones, mais là-bas dans la gloire, là où Jésus se trouve, où il est allé nous préparer une place. Oui, c'est ça que nous voulons. Oui, monsieur, se garder de toutes ces choses. Cette vieille tente terrestre ici, vous savez ce que c'est? Ce corps, c'est comme un vieux manteau qu'on porte, un manteau qu'on a porté autrefois. Mais maintenant, vous en avez un tellement meilleur que vous n'utilisez plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous le suspendez dans le placard parce que vous en avez un meilleur. Vous avez un meilleur manteau. Il est plus au goût du jour que celui que vous portiez autrefois qui est usé. Qu'est-ce? Voilà, c'est ce vêtement. Vous êtes ce qui est à l'intérieur. Souvenez-vous, ce vêtement, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que porter votre image, voyez? Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous l'avez suspendu. Ce sont des guenilles. Et ce vieux corps est comme ça. Oui, il a porté l'image du céleste, pourtant il n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'Esprit de Dieu, vous êtes à l'intérieur de ce corps. C'est ce qui amène l'extérieur à la soumission. C'est parce que c'est l'intérieur qui tire. Vous voyez qu'il amène à s'aligner sur la parole de Dieu, votre intérieur, vous, vous-même, votre être. Ce corps n'est qu'un vieux manteau. Et un jour, qu'allez-vous en faire, puisque vous n'étiez dans ce vêtement que pour un temps? C'est comme le vêtement terrestre, ce corps. Votre vrai corps, votre vrai moi, se trouve à l'intérieur de ce vieux manteau que vous appelez William Branham ou Susie Jones ou n'importe qui d'autre. Voyez, un jour, il sera suspendu dans le musée terrestre en souvenir de vous. Vous le déposerez là-bas, dans la tombe, et quelqu'un érigera dessus une pierre tombale, sigil, le révérend un tel ou Jean un tel, tel, il reposera là en votre mémoire. Les gens ne vous ont vu que dans celui-ci. Ce que vous étiez, votre vrai moi, était à l'intérieur de ça. Mais le vieux manteau, ça ne faisait que porter l'image du céleste. Oh, les amis, avez-vous fait votre réservation pour changer de manteau? Avez-vous fait votre réservation pour le ciel? Souvenez-vous, il vous faut une réservation. Sans cela, vous ne pourrez pas y entrer. Là, je vous parle dans un langage actuel que vous connaissez. Si vous allez à l'hôtel et que vous dites, eh bien, avez-vous réservé? Alors, je regrette, c'est complet. Vous restez dehors dans le froid parce que vous avez omis de réserver. Si vous arrivez au terme de votre voyage de cette vie sans avoir réservé, il n'y aura personne là pour vous accueillir. Vous devez pénétrer dans une éternité obscure où il y aura des cris, des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Il le faut. Vous ne pouvez pas entrer dans la ville parce que vous n'avez pas de réservation. Il vous faut en avoir une pour entrer dans la ville là où Jésus est allé vous préparer une place. Souvenez-vous, il vous faut avoir une réservation et porter le vêtement du salut. Vous ne pouvez pas. Dans Matthieu, j'ai ici un passage de l'Écriture. Je regarde ce que dit l'Écriture. Matthieu 22, 1 à 14. Je n'ai pas le temps de le lire parce qu'il se fait trop tard. Je vous ai parlé trop longtemps. Mais souvenez-vous, le roi a lancé des invitations et a organisé un souper. Il a tué tous ses bœufs et il a préparé les bêtes grasses et tout. Et il a apprêté un grand souper. Et il a envoyé des messagers. Et il a invité beaucoup de monde à venir. L'un a dit, eh bien, tu sais, après tout, je fais partie de ceci, j'ai ceci, je dois m'occuper de ma femme. Et un autre avait un tas de choses à faire. Il a de nouveau envoyé des messagers. On les a maltraités. Et finalement, c'était à la génération des Juifs que Jésus parlait. Il avait autre chose à faire. Alors finalement, il les a envoyés. Dites, allez, ne vous contentez pas de contraignez-les. Allez dans les rues et le long des chemins, partout, et contraignez-les, les gens à entrer. Et après ça, bien décidé que sa maison, que son souper de noces allait avoir lieu, il y aura des convives. Et voilà qu'il trouve là un homme qui ne portait pas l'habit de noces. Il avait voulu garder son vieux manteau et regardez ce qu'il lui a dit. Mon ami, toi, après que je t'ai invité à mon souper de noces, que je t'ai invité et que je t'ai donné une invitation à venir, et si jamais vous êtes allé en Orient, je suis allé prêcher là-bas plusieurs fois, le souper de noces se déroule toujours comme autrefois. Le marié, tout, il a prévu un certain nombre de convives, probablement, frère Cop. Probablement que vous avez observé ça en Inde. Observez, voyez, ils ont un certain nombre de convives invités. Disons qu'il veut inviter 30 convives. Alors, le marié doit fournir les habits. Il doit les fournir. Par conséquent, il y a un homme qui se tient à la porte. Vous vous présentez là avec votre invitation. Il examine votre invitation et il vous met un habit, un vêtement de cérémonie. Là, certains sont riches, certains sont pauvres, d'autres sont autrement. Mais une fois qu'ils ont mis le vêtement de cérémonie d'apparence, ils sont tous pareils. D'apparence, ils sont tous pareils. Et vous devrez tous être pareils. Vous n'allez pas pouvoir dire, moi, je fais partie des méthodistes ici, je suis presbytérien, je fais partie des presbytériens ici. Oh non, pour commencer, vous n'entrerez pas du tout, vous voyez. C'est par la porte que vous devez entrer. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Je suis pentecôtiste, je suis ceci, je suis cela. Ça ne veut rien dire du tout. Vous passez par cette porte. Et si vous passez par cette porte, vous recevez le vêtement de cérémonie. Et cet homme, quand il a dit, comment es-tu entré ici, mon ami? Voyez, ça montrait qu'il avait passé par un autre endroit, qu'il était entré par une fenêtre, qu'il était entré par l'arrière, mais pas par la porte, pas par la porte de la façon dont Jésus est venu, par le sacrifice de soi, en donnant tout ce qu'on est à Dieu, en allant jusqu'au calvaire, en étant crucifié avec lui, et en ressuscitant pour porter son vêtement du sacrifice et de la mort aux choses du monde. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous, voyez? Si vous avez toujours l'amour du monde, que vous voulez vous comporter comme le monde et faire comme fait le monde, vous essayez, vous êtes bien que vous soyez dans l'Église, mais vous êtes un gratteron dans le même champ que le blé. Vous jubilez avec les autres, vous vous réjouissez avec les autres. Toutes les bénédictions spirituelles sont bien sur vous. Vous dites, mais je prophétise, Caïphe aussi, Balaam aussi. Ça n'a rien. J'ai le baptême du Saint-Esprit, ça non plus, ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire pour vous. Le véritable don, c'est votre âme, là, au fond, vous voyez, qui est née de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Et là, vous grandissez, vous voyez, alors vous êtes un fils et une fille de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, et ces choses, alors que vous vous développez, comme avec la mère, vous êtes maintenant dans les entrailles de la terre et vous essayez de sortir, vous êtes un fils de Dieu en train de sortir, et vous voyez la parole qui dit que je devrais faire ceci, que je devrais naître de nouveau. Eh bien, je suis membre de l'Église, ça ne veut absolument rien dire. Vous voyez, je suis méthodiste, ma mère l'est. Ça, c'est valable pour votre mère. Oh, mais moi, je suis pentecôtiste, j'y en fais partie. Alors, si vous ne vous alignez pas sur cette parole, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, vous voyez, votre vrai père n'est pas Dieu, vous voyez, parce que cela a réellement commencé dans votre âme. Avant même qu'il y ait un esprit, il y avait là votre âme. Cette âme n'est pas venue de Dieu, donc elle n'était pas un germe de Dieu dès le départ. Vous avez été induit en erreur. Vous êtes dans un champ de mauvaises herbes et vous rendez témoignage du monde par les mauvaises herbes qui y poussent. Vous agissez comme le monde, vous aimez le monde parce que le mot de Dieu n'est pas en vous. Et donc, il y aura de faux oints dans les derniers jours, pas de faux Jésus. Ça, c'est les gens ne l'accepteraient pas. Accepteraient pas, mais de faux oints. Ils sont oints, oui, monsieur, mais ils sont antichrist. Ils sont oints de l'esprit pour faire les signes et les prodiges que Christ a fait, mais ils ne veulent pas s'aligner sur sa parole, voyez. Plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé et chassé des démons par ton nom? Il dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai même jamais connu. J'étais pentecôtiste, Seigneur. Gloire à Dieu, j'ai jubilé. J'ai parlé en langue, j'ai imposé les mots malades et je les ai guéris. J'ai chassé le démon. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, petits-enfants, est-ce que vous ressentez le besoin de cette vitamine ce soir, de ce quelque chose qui a un corps qui attend là-bas? Il y a un corps que nous allons recevoir, qui nous attend. Les amis, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Le diable est un trompeur. Même l'habit de noces, vous devez le porter. Il le faut. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Le corps terrestre est maintenant sur le point de disparaître et nous nous préparons à entrer dans le corps céleste. Et maintenant, nous percevons cet étrange appel de Dieu à nous rendre dans ce glorieux Éden. Et avant que nous naissions ici, nos petits corps réclamaient quelque chose qui devait être fourni, sans quoi nous serions ici un enfant souffrant d'une affliction. Là-haut, avec Dieu, il n'y a pas d'affliction. Tous sont parfaitement alignés. L'épouse correspond parfaitement à ce qu'était l'épouse. La parole manifestée en sa saison. Puisse Dieu l'accorder à chacun d'entre vous, enfin, sans exception. Il y a un ciel où aller, il y a un enfer à éviter. Bon, vous êtes nombreux à savoir que le Seigneur m'a donné des visions, des milliers d'entre elles. La chose la plus glorieuse. Autrefois, j'avais peur de la mort. Il y a environ 3 ans, vous avez vu l'article paru chez les hommes d'affaires chrétiens au-delà du rideau du temps. Je suis conscient que je pourrais ne pas passer la nuit. Je ne vous reverrai peut-être jamais de ma vie ici-bas, mais ceci est vrai. Je ne sais pas s'il faut l'appeler une vision ou quoi au juste. Un matin, récemment, je venais de me réveiller. Je venais de rentrer d'une série de réunions. Ma femme était là, endormie. Je lui ai dit, « Chérie, est-ce que tu t'es réveillée? » Elle dormait toujours. Je savais qu'il fallait nous lever pour amener les enfants à l'école. J'ai relevé mes mains en arrière comme ceci. Je me suis dit, « Eh bien, dis donc, Bill Branham, sais-tu que tu as plus de 50 ans? Toi, si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, tu ferais mieux de te dépêcher parce qu'il ne te reste plus beaucoup de temps. » Je me suis dit, « Oh, j'espère que je vivrai assez longtemps pour voir la venue du Seigneur Jésus. » J'avais toujours imaginé que lorsqu'on mourait, je verrais, prenons le frère ici, je dirais, « Oui, frère Branham, un soir, là-bas sur la terre, vous avez prêché dans mon église. » Mais il serait un esprit, je ne pourrais pas lui serrer la main parce que sa main serait là-bas dans la tombe en décomposition. Vous voyez, la mienne aussi. C'est un peu l'idée que je m'en faisais. Mais ce matin-là, quand j'ai senti quelque chose m'envahir, je me suis dit, c'était comme d'habitude, quand une vision vient, j'ai regardé. J'ai regardé encore, je me disais, oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Je voyais de grandes collines verdoyantes et de partout s'avançaient des jeunes femmes par dizaines de milliers, des centaines de milliers. Elles s'avançaient toutes, leurs longs cheveux qui leur descendaient dans le dos, vêtues de robes blanches, nu-pieds. Elles poussaient des cris, elles criaient à tue-tête, notre frère. Je me suis dit, ça, c'est bizarre. Je me suis retourné pour regarder. J'étais bien étendu là et ma femme était étendue là sur le lit. J'ai dit, bon, tu sais quoi? Je suis mort. J'ai dit, eh bien, voilà, c'est ce qui est arrivé, je suis mort. Et j'ai dit, j'ai peut-être eu une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Je suis mort. Voilà mon corps étendu là. J'étais simplement étendu là, les mains en arrière comme ça, tout raide. Je me suis dit, ce n'est même pas à 20 pieds de moi. Et j'étais là en train de regarder. Et je me suis dit, c'est voilà ma femme, tout est bien là. Voilà ma chemise qui est suspendue là, à ce pied de lit. Et je me suis dit, moi, mais je suis ici. J'ai de nouveau regardé autour de moi et toutes ces femmes arrivaient. Et elles étaient, j'ai regardé venir de ce côté-ci. Et c'était mes frères qui arrivaient. Oh, ils étaient bien réels. Ils avaient tous l'air d'être de jeunes hommes. Il criait, notre précieux frère. Oh, je ne savais pas quoi penser. Je me suis dit, ça, c'est bizarre. Je me suis regardé. Je n'étais pas un vieil homme. J'étais jeune. Je me suis dit, ça, c'est bizarre. Je me suis dit, est-ce une vision? Je me suis mordu le doigt. Je me suis dit, non, ce n'est pas comme les visions que j'ai eues. Et à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui s'est mis à me parler ici en haut et qui m'a dit, tu es entré rejoindre les tiens. Et je me suis dit, les miens, ces gens sont-ils tous des Branham? Il m'a dit, ce sont des convertis à Christ. Et ces femmes, vous savez, on m'a toujours traité de comme de raison, on m'appelle un misogyne, mais je n'en suis pas un, vous voyez. C'est parce que je n'aime pas les personnes immorales, indécentes. J'aime de vraies sœurs en Christ, des sœurs authentiques. Si elles sont comme ça, alors c'est bon. J'ai des cicatrices de l'époque où j'étais gamin. J'ai connu des événements qui m'ont rendu comme ça. Mais tout ça, c'était Dieu qui me faisait, qui me formait pour cette heure-ci, vous voyez. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une vraie, une authentique sœur. Si Dieu avait pu donner à l'homme quelque chose de meilleur que le salut, il lui aurait donné une épouse. Vous voyez, donc si Dieu avait pu donner quelque chose de meilleur, il l'aurait fait. Et alors de voir que certaines d'entre elles se détournent et n'agissent même plus comme une épouse, qu'elles sont infidèles à leur vœu de mariage et à leur mari aussi. Souvenez-vous, vous êtes liés l'un à l'autre tant que vous vivez, vivrez. Ce que Dieu a uni sur terre est aussi uni au ciel, voyez. Donc, je voyais ça, et ces femmes accouraient, me sautaient au cou, elles m'étreignaient tout en m'appelant frère. Or, c'était des femmes, mais dans ce lieu-là, il ne pourrait jamais y avoir de péché. Voyez, c'était des femmes. Mais voyez la manière dont nous sommes faits maintenant. La femme a une glande féminine, et l'homme a une glande masculine. C'est pour élever des enfants. Là-bas, il n'y aura pas là. Ils auront tous la même glande, mais ils auront encore la même forme. L'image terrestre qu'ils portaient ici se retrouvera là-bas, mais jamais il ne pourra y avoir de péché. Vous serez tous pareils. On n'élèvera plus d'enfants là-bas, voyez, c'est vrai. Tout sera comme ça. Donc, je regardais, il y avait ces femmes, et ils m'ont soulevé. Ces frères m'ont déposé sur un endroit surélevé. J'ai dit, pourquoi avez-vous fait ça? Il m'a dit, sur terre, tu étais un chef. Il a dit, ce sont ces gens-là. Une femme s'est avancée, elle a dit, notre précieux frère, une femme d'une beauté exceptionnelle, alors qu'elle passait près de moi, cette voix m'a interpellé en disant, moi, tu ne te souviens pas d'elle? J'ai dit, non, tu l'as conduite à Christ alors qu'elle avait plus de 90 ans. Tu vois, tu peux comprendre pourquoi elle dit, précieux frère, n'est-ce pas? Je dis, eh bien, est-ce que vous allez, nous attendons ici? Eh bien, si je suis de l'autre côté, je veux voir Jésus. Tu ne peux pas le voir maintenant. Ça, c'est ce que l'Écriture appelle les anges sous l'autel. Lui, il est juste un peu plus haut. Un jour, il reviendra. Nous retournerons sur terre. Ici, on ne mange pas et on ne boit pas. J'ai dit, et dire que j'avais peur de ceci, mais il n'y a pas de mot pour l'exprimer, mes amis. C'est parfait. Ça n'approcherait même pas sublime dans le vocabulaire anglais. Je ne connais aucun mot pouvant exprimer comme c'est. Cela dépasse tout ce que je connais. Il était là. Il n'y avait pas de maladie, pas de chagrin. On ne pouvait pas mourir. On ne pouvait pas pécher. C'était parfait, tout simplement parfait. Mes amis, il ne faut pas manquer ça. Souvenez-vous, quand j'étais un jeune garçon, j'ai eu une vision de l'enfer. J'étais un jeune garçon. Et vous savez comment les dames aujourd'hui, ou plutôt les femmes, une dame ne ferait pas une chose pareille, se maquiller les yeux comme si ceux d'un loup, ou quelque chose comme ça, avec ce truc bleu sous les yeux. J'ai vu ça, j'étais en train de sombrer, j'étais jeune garçon, j'avais reçu un coup de feu, et j'étais couché à l'hôpital, j'agonisais. J'avais toujours su que Dieu existait, je me rappelle la première prière que j'ai essayé de faire. La seule chose que je peux dire, je n'ai encore jamais raconté ceci, mais j'ai à cœur de le raconter à ce moment-là. J'avais reçu un coup de feu, j'étais tendu là dans un champ, en train d'agoniser, le seul argument que je pouvais présenter devant Dieu, pour ma défense, j'ai dit, tu sais Seigneur, je n'ai jamais commis adultère. Vous voyez, j'étais un jeune garçon, j'ai une quinzaine d'années, j'avais essayé de vivre comme il le faut. Et j'ai dit, j'ai vécu chastement. C'était tout ce que je pouvais dire. C'était le seul mérite que j'avais à lui présenter. Et alors, étendu là, après que le médecin est reparti, je me suis senti sombrer dans une éternité obscure. On aurait dit, j'ai appelé papa en hurlant, « Oh papa, viens à mon secours! » Papa n'était pas là. « Maman, viens à mon secours! » Maman n'était pas là. « Oh Dieu, viens à mon secours! » Dieu n'était pas là. Oh, c'était un cauchemar horrible, interminable. Un enfer de feu et de flammes serait un endroit agréable comparé à ça. Alors que je tombais là-dedans, je me disais, « Oh là là, tout en dégringolant comme ceci, je suis arrivé dans un endroit enfumé, obscur, écœurant. Oh, quelle sensation! C'était la mort qui était sur moi. Je pouvais voir ces femmes s'approcher de moi avec ses yeux maquillés comme ça. Oh, souvenez-vous, c'est arrivé il y a 45 ans, ou du moins une quarantaine d'années. Elle faisait, J'ai pensé, est-ce que je dois rester là pour toujours? J'ai dit, oh Dieu, si tu me fais sortir d'ici, je n'aurai plus jamais honte de toi. Je n'aurai plus jamais honte. Oh Dieu, je t'en prie, donne-moi une chance. Soudain, je me suis senti revenir. Le médecin était inquiet parce que mon cœur ne battait qu'à 17 battements par minute. J'avais déjà perdu tout mon sang et tout. Je baignais dans mon propre sang. Je me suis demandé si un jour cela arriverait. Il y a environ 2 ans, quand je suis allé habiter à Tucson, j'étais avec ma femme au magasin J.C. Penney. J'étais assis là comme ça, la tête baissée, et j'attendais parce que vous savez comment sont les femmes, elles passent du temps dans les magasins. Alors j'étais assis là, la tête baissée comme ceci, et en haut de l'escalier roulant, j'ai vu arriver quelques-unes de ces femmes avec des coupes de cheveux donnant l'impression qu'elles étaient hydrocéphales, vous savez, comme elles le font, comme ça. Elles arrivaient avec les yeux tout maquillés comme ça, elles parlaient espagnol, c'était ça, toute la chose, la vision s'est répétée. C'était là. Frère, sœur, je veux vous dire quelque chose. Ça peut paraître amusant en ce moment, mais une fois qu'on arrive là-bas, c'est vraiment sérieux. Ne prenez jamais cette voie-là. Moi, qui suis un vieil homme, un ministre, j'ai prêché dans le monde entier, j'ai des millions d'amis, mais je sais que je devrais comparaître là-bas avec vous. Éloignez-vous des choses du monde. Et s'il y a quelque chose en vous qui fait que vous voulez toujours agir comme vous le faites, qu'effectivement les choses du monde sont en vous, souvenez-vous, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous n'êtes qu'un membre d'Église. Tant qu'il n'y a pas cet appel, cette profondeur qui appelle la profondeur, voyez, c'est comme avant qu'il y ait une nageoire sur le dos du poisson. Il fallait d'abord qu'il y ait de l'eau ou qu'il puisse nager, sinon il n'aurait jamais eu de nageoire. Avant même qu'un arbre puisse pousser en terre, il fallait qu'il y ait une terre, sinon aucun arbre n'aurait pu y pousser. L'arbre n'aurait eu aucune raison d'être ni de coexister. Avant qu'il puisse y avoir une création, il faut qu'il y ait un créateur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, voyez, il y a quelque chose en nous. Vous avez levé la main tout à l'heure pour dire, je veux plus de Dieu. Voyez, il y a un besoin là. Et si vous aimez le monde, que vous suivez cette voie-là, celle des choses du monde, vous suivrez le monde dans sa course et vous irez à la chute. Sortez, vous êtes des fils et des filles du roi. Soyez des dames et des gentlemen. Marchez comme des chrétiens, vivez comme des chrétiens, agissez comme des chrétiens. Souvenez-vous, je vous retrouverai au tribunal du jugement avec ces réflexions, voyez. Ce soir, regardez dans votre miroir et voyez, dans quelle direction est-ce que je vais? Est-ce que Jésus me prépare une place, un corps? Ce corps-là est parfait. Ce corps-là se conduit comme il faut. C'est un fils ou une fille devant Dieu. Et j'éprouve les douleurs de l'enfantement ici pour naître dans le corps qui est là-bas. Si j'aime encore le monde, ça me montre que je ne suis pas de ce corps-là, là-bas. Je ne suis qu'un membre d'Église. Je n'étais pas un germe de Dieu. Je ne le suis pas. Il n'est pas mon père. Il a dit, si vous ne supportez pas la correction, c'est ce que vous recevez maintenant, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des enfants de Dieu. Pas vrai? Est-ce bien ce que la Bible dit? Ne supportez pas la correction de Dieu. Quand vous voyez l'Écriture vous remettre au pas, que vous dites, oh, je ne veux pas entendre ces affaires-là. Moi, je suis chrétien. Je fais très bien. Allez-y. Voyez, voilà une preuve évidente que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, mais un véritable enfant de Dieu a faim et soif. Pourquoi? Si dans votre cœur quelque chose vous dit que vous désirez cela et que c'est un besoin là, ça montre qu'il y a quelque chose qui palpite, qui essaie de vous attirer là-bas. Il y a un corps là-bas dont celui-ci est un type. À quelle fin utilisez-vous celui-ci? Pour glorifier le diable et le monde et les modes et tout? Ou bien est-ce que vos regards sont tournés vers le ciel? Il y a quelque chose là-haut et vous glorifiez Dieu dans votre vie? Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, j'irai vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les choses qui sont à venir, les choses actuelles sont seulement quelque chose de potentiel qui réclame les choses qui sont à venir. Prions. Réfléchissez sérieusement. Voulez-vous le faire, cher ami chrétien? Réfléchissez très sérieusement un instant. Soyons vraiment silencieux pendant un instant. Laissons le Saint-Esprit parler. Or, le Seigneur Jésus m'a envoyé vers vous, pentecôtistes, il y a longtemps. Prenez cet homme qui est l'un des vôtres et qui est devenu votre pasteur, a dit que c'était le résultat du ministère. Il a vu le Seigneur Jésus ouvrir les yeux de l'aveugle. Il a dit l'avoir vu ramener à leur taille normale, la tête des hydrocéphales. Je continue à faire des services de guérison, mais je me rends bien compte que j'ai prié pour beaucoup de personnes qui étaient très malades. Elles ont été guéries. Le Seigneur a exaucé la prière et a guéri les malades. Mais vous savez, certaines de ces personnes qui ont été guéries sont déjà mortes. Et peu importe combien vous êtes malade, si vous êtes guéri, vous mourrez quand même. Mais cette âme, mon précieux frère, cette âme, ma précieuse sœur, ne voulez-vous pas y penser maintenant? Elle est éternelle. Si cet amour de Dieu n'est pas là à l'intérieur, s'il n'y a rien qui tire, ne voulez-vous pas demander à Dieu, « Oh Dieu, fais-moi prendre un nouveau départ ce soir, je t'aime, Seigneur, je veux t'aimer, il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit que je dois vivre plus près de toi, je veux venir le faire immédiatement, Seigneur. » Si cette personne ou ces personnes sont dans la salle ou hors de cette salle, je vous demande en tant que serviteur de Christ, et au nom de Jésus-Christ, en gardant la tête inclinée, voulez-vous juste lever la main vers Dieu et dire simplement, « Oh Dieu, attire-moi plus près, Dieu bien-aimé. Je veux m'aligner sur tout ce que tu as dans ta parole. » Levez la main. Maintenant, soyez vraiment honnête, réfléchissez. Bon, les gens disent, « Oh, j'ai fait ceci, j'ai poussé des cris par l'Esprit, j'ai parlé en langue. » Mais regardez, il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Je regarde dans le miroir de la parole de Dieu, je sais qu'il y a quelque chose. Je vais à l'Église, mais je ne suis pas ce que je devrais être. Voyez, ça montre qu'il y a quelque chose. Or, si en vous examinant, vous pouvez voir que vous n'êtes pas aligné sur la parole de Dieu et qu'il n'y a rien à l'intérieur qui vous pousse à lever la main, alors vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez, et ma mère disait, on ne peut pas faire sortir du sang d'un navet parce qu'il n'y a pas de sang dedans, vous voyez? Réfléchissez à ça très sérieusement. Ce pourrait être votre dernière occasion. 30, 40 mains se sont levées ici, dans ce petit groupe, même des membres du clergé. Soyez très respectueux un instant. Maintenant, réfléchissez bien. Dieu bien-aimé, il se pourrait que je sois tué dans un accident ce soir. Il se pourrait que je meure d'une crise cardiaque. Un de ces quatre matins, il se pourrait que j'appelle le médecin qu'il vienne et que mon pouls soit à peine perceptible. Je suis fichu. J'appuie ma joue contre l'oreiller en réclamant, « Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu! » Voyez, ce cœur bat pour la dernière fois. Vous arriverez à cette grande porte. Vous ne sortirez jamais de là, à moins d'être né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Vous ne sortirez jamais de là, à moins qu'il y ait quelque chose en vous, une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, qui a faim et soif d'avancer avec Dieu. Il le faut, voyez. Vous êtes un enfant de la terre, dans les entrailles de la terre, qui attend encore de naître dans le royaume de Dieu, là où il est allé vous préparer un autre corps qui est un corps parfait. Maintenant, réfléchissez très profondément et prions ensemble. Dieu bien-aimé, je sais que ceci est inscrit dans le livre, dans le grand registre. Nos tâtonnements dans le domaine de la science, Seigneur, nous ont quand même réveillés à certaines réalités. Nous savons que chaque geste que nous faisons fait plusieurs fois le tour du monde au même moment où nous le faisons. Nous le voyons par la télévision. Père, nous comprenons bien que la télévision ne fabrique pas l'image. Elle ne fait que canaliser les vibrations dans un tube qui reproduit l'image. Même la couleur des vêtements que nous portons est visible par les ondes éthérées de l'air, car c'est transmis sous forme de vibrations dans le monde entier. Alors comment nos sœurs peuvent-elles porter ce genre de vêtements, agir comme ça et ne même pas avoir faim, maquiller les cheveux coupés? Des ministres qui vont opter pour la théologie, pour un séminaire et y accepter des paroles d'hommes qui, par leur tradition, annulent l'effet des commandements de Dieu sur les gens, par leur tradition en disant aux gens qu'il suffit d'être membre de l'Église. Oh Dieu, sont-ils conscients que chaque mot que nous prononçons, c'est prouvé par la science, est enregistré, et l'enregistrement commence au moment où nous commençons notre vie sur cette terre, il se termine à notre mort, et il est placé dans l'album de Dieu pour être repassé au jugement. Le châtiment de Dieu, comment y échapperons-nous si la chose nous a été montrée si clairement que nous l'avons quand même rejetée? Oh Dieu bien-aimé, ces paroles ne meurent jamais. Elle continue sans fin. L'enregistrement sera passé au jour du jugement. Tu as vu ses mains qui se sont levées, Père? Ce sera montré directement là, au jour du jugement. Et ce que leur cœur pensait sera aussi montré au jour du jugement. Maintenant, Dieu notre Père, je te demande en tant que ton serviteur, je te prie d'ôter toute iniquité de ton peuple. L'iniquité, quelque chose que nous savons que nous devons faire et que nous ne faisons pas. David a dit, « Si je conçois l'iniquité dans mon cœur, Dieu n'exaucera pas mes prières. Je te prie, ô Dieu, d'ôter notre iniquité, parce que la parole est ton miroir qui nous montre à quel point nous sommes loin d'être des fils et des filles du roi. Père, je te prie de l'accorder ce soir. Et fais que ce soit là un autel, puisque l'autel est déjà rempli des gens, puisque ce soit là un autel sur la chaise où les gens sont assis. Fais que l'autel, ce soit leur cœur, que le monde s'éloigne de chaque frère et de chaque sœur qui est ici, et que ce petit germe de vie, ce gène de Dieu dont nous venons de parler, cet attribut qui est descendu de Dieu et qui a été manifesté ici pour honorer et glorifier Dieu, ô Dieu, éloigne le monde de cela. » Pour les autres, je ne peux pas prier, Seigneur, parce que cette maladie conduit à la mort. Il n'y a rien en eux pour les faire réagir. Mais pour ceux qui peuvent réagir et qui savent que c'est mal, purifie leur cœur et leur âme ce soir, Père, et qu'ils soient remplis de ton esprit et marchent dans ta lumière. Bénis ce cher pasteur ici qui est jeune, en bonne santé et qui a l'air robuste, Seigneur. Ce jeune homme qui dit qu'il a été influencé par ce qu'il t'a vu faire. Ce brave jeune homme, ô Dieu, embrase son âme. Accorde-le, Seigneur, qu'il soit continuellement un vrai berger tout le temps pour nourrir le troupeau dont le Saint-Esprit l'a établi, surveillant. Accorde-le, Seigneur, qu'il ne se détourne ni à droite ni à gauche, d'aucun côté, vers aucun credo, ni rien d'autre, mais que ce soit la pure parole de Dieu qui sorte de sa bouche et elle seule. Bénis-le, ô Dieu, lui et ses bien-aimés, et sa petite assemblée ici, soit avec eux tous, Père. Je te confie ceci, Père, la semence a été semée, puisse-t-elle tomber sur la semence qui a été destinée à la vie et faire grandir des chrétiens remarquables et forts dans cette assemblée ici et dans les autres assemblées d'où ils viennent. Accorde-le, Seigneur, je te remets cela au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et Père, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. J'ai vu passer par la porte, il y a quelques instants, une pauvre femme agitée. Ô Dieu, dans sa propre famille, quelles choses glorieuses ont été accomplies. Combien tu t'es manifesté. Ô Dieu, je prie pour cette femme. Enlève tout ce passé dans sa vie, Seigneur, et guéris-la ce soir. Veux-tu le faire, Seigneur? Prends-la près de toi. Tu le vois, il y a des petits-enfants assis ici, Seigneur, qui ont besoin de guérison, et d'autres personnes. Je te prie de les guérir, Père, accorde-le. Que ta glorieuse puissance de guérison vienne nous guérir, guérir notre âme et notre corps. Maintenant, quant à vous maintenant qui êtes ici, dans l'Église ou à l'extérieur, et qui avez besoin de guérison, je veux que vous leviez la main pour dire, j'ai besoin de guérison, Frère Branham. On dirait que tout le monde en a besoin. Très bien. Êtes-vous prêt à croire que je suis un serviteur de Christ? Dites Amen. Alors, je veux que vous posiez vos mains les uns sur les autres. Imposez-vous simplement les mains. Vous avez levé la main à l'intérieur et à l'extérieur. Vous avez levé la main pour indiquer que vous croyez en Dieu. Jésus-Christ a dit à sa dernière commission à l'Église, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Mais s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. » Or, c'est ce que Jésus a dit. Souvenez-vous, c'est lui qui l'a dit. Ça ne peut pas faire autrement qu'arriver. Il ne l'aurait pas dit sans qu'il n'y ait quelqu'un qui puisse saisir cette parole, tout comme le sein de Marie qui a pu saisir le germe, une vierge concevra, comme un palmier qui a pu être créé et un chêne sur une colline. C'est sa parole qui l'a fait. Sa parole peut s'ancrer dans votre cœur maintenant même. Je suis un croyant, Seigneur. Cet homme ou cette femme sur qui j'ai posé les mains est une personne souffrante. Je ne prie pas pour moi-même, parce que c'est eux qui prient pour moi. Je prie pour elle ou pour lui. Oh Dieu, guéris-le, guéris-la. Je suis un croyant et nous voici rassemblés. on vient de nous enseigner que nous étions avec Christ quand il marchait sur la terre, parce que nous faisons partie de sa parole. Nous avons souffert avec lui, nous avons saigné avec lui, nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le grand roi est ici au milieu de nous, et je suis un fils ou une fille de ce roi. J'ai posé ma main sur un fils ou une fille du roi qui prie pour moi, et moi, je prie pour eux. Maintenant, Seigneur, exauce ma prière et guéris ce fils de Dieu ou cette fille de Dieu. Ensemble, maintenant, prions les uns pour les autres. Seigneur Jésus, nous venons humblement confesser nos fautes. Nous venons en confessant que nous méritons la maladie, la mort et le chagrin, mais que nous acceptons l'expiation que tu as faite pour nos péchés et pour notre maladie. Et ce soir, ces fils et ces filles de Dieu qui sont ici, ayant écouté la parole de correction, ils ont levé la main, ils désirent marcher plus près de toi. Maintenant, ils s'imposent les mains les uns aux autres parce qu'ils croient que ta parole est vraie. Ils croient que nous sommes maintenant ressuscités avec Christ et assis avec lui dans les lieux célestes. Leurs mains sont posées les uns sur les autres et ils prient les uns pour les autres. Tu as dit, la prière de la foi sauvera le malade et Dieu le relèvera. Et s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ô Dieu éternel, exauce la prière de tes serviteurs. Et maintenant, il est aussi écrit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom se rassemble et prie, je l'exaucerai des cieux. Ô Dieu, exauce ce soir du haut des cieux la prière de tes enfants. Fais descendre le Saint-Esprit sur cet auditoire comme un vent impétueux. Nous amenons ces gens devant Dieu. Satan, tu es vaincu. Tu es un être vaincu. Jésus-Christ t'a vaincu au calvaire. Tu n'as aucun pouvoir. Tu es un bluffeur. Nous te défions ce soir. Au nom de Jésus-Christ, maladie et infirmité, sortez des gens qui sont ici et qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia! Alléluia! Sentez la gloire de Dieu. Sentez que votre prière a été exaucée. Vous croyez que Dieu a exaucé la personne assise à côté de vous? Combien le croient? Levez les mains. Voilà. Oh, merveilleux. Je l'aime. Maintenant, avec les mains levées, chantez-le pour lui de tout votre cœur. Parce qu'il m'a aimé le premier. Ça vient vraiment du fond de votre cœur, là? Combien parmi vous croient que Dieu a pardonné vos iniquités, les choses que vous avez faites? Et à partir de ce soir, ô agneau de Dieu, je promets de marcher droit. Je marcherai en honorant le nom qu'on me donne, celui de chrétien, une vie qui ressemble à celle de Christ. Je lèverai les mains, ô Dieu, ce soir. Je me consacre à toi, tout à nouveau. Je marcherai dans la lumière. Amen. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons dans la lumière. C'est une lumière si belle, là où la miséricorde étincelle. Là où il est allé nous préparer une place, brille autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Vous tous, les saints de la lumière, proclamez Jésus, la lumière du monde. La vérité et la miséricorde en son nom. Jésus, la lumière du monde. Alors, que ferons-nous? Oui, nous marcherons dans la lumière. Là où la miséricorde étincelle, brille autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oh, est-ce que vous ne vous sentez pas tout récuré, tout bien? Oh là là, serrons-nous la main pendant que nous le chantons de nouveau. Oui, nous marcherons dans la lumière. Là où... Que Dieu vous bénisse, frère. Étincelle. Brille autour de nous. Le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Fermons simplement les yeux et fredonnons-le. Nous agissons comme des enfants. Nous sommes des enfants. Oh, c'est une lumière si belle. Là où la miséricorde étincelle. Oh, brille autour de nous. Le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Vous l'aimez, n'est-ce pas? La foi regarde à toi. Toi, agneau du... Fermez simplement les yeux et chantez-le, adoré par l'Esprit. Sauveur divin. Écoute ma prière. Efface mes péchés. Que je sois dès ce jour entier à toi. Dans ce labyrinthe, entouré de malheur, oh, sois mon guide. Disperse ces ténèbres. Viens effacer mes larmes. Que jamais, loin de toi, je ne m'égare. Oh là là. Je suis vieux jeu. Je trouve que c'est mille fois mieux que toutes ces nouvelles imitations saccadées de fandango et de rock'n'roll. Ces poètes d'autrefois qui ont écrit ces cantiques, c'est le Saint-Esprit qui a touché cette plume et ils se sont mis à écrire. Oh là là, je pense à Eddie Perronet et à tous ces grands, à Fanny Crosby. Ne passe pas près de moi sans t'arrêter. Oh, doux sauveur, écoute mon humble cri. Une fois, ils ont essayé de l'avoir. Elle n'a pas fait comme le pentecôtiste Elvis Presley. Elle n'a pas vendu son droit d'aînesse pour un tas de Cadillac. Et des gens sont venus lui demander d'écrire des chants mondains. Elle a dit, pour rien au monde, je ne ferai ça. Ils lui ont dit, voyons, vous êtes aveugle. Quand vous arriverez au ciel, comment le reconnaîtrez-vous? Elle s'est retournée sous l'inspiration. Elle a dit, oui, je saurai que c'est bien lui. Et à son côté, je me tiendrai. Oui, je saurai que c'est bien lui. Comment? Par les marques de clous dans ses... Autrement dit, si je ne le vois pas, je toucherai sa main. Oui, je saurai que c'est bien lui. Et à son côté, je me tiendrai. Oui, je saurai que c'est bien lui. Par les marques de clous dans ses mains. Thank you. est-ce que ça ne vous pousse pas à l'aimer? Il est allé nous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai pour vous prendre avec moi. Petits enfants qui éprouvez maintenant les douleurs de l'enfantement, de nouveau obéissez au commandement de Dieu. Le pasteur est ici. Si aucun de vous n'a été baptisé, l'eau sera prête. Et si vous voulez devenir membre de l'Église ou faire autre chose, quoi que ce soit, faites-le. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ce soir, c'est le moment de le recevoir. Ne le croyez-vous pas? Ou direz-vous, frère Branham, il est tard. Vous avez prêché trop longtemps. Un soir, Paul a prêché un message du même genre. Toute la nuit, un jeune homme s'est tué en tombant du mur. Et Paul, qui était tellement loin par cette même sorte de message, a étendu son corps sur lui et la vie est revenue en lui. Il est toujours Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Vous l'aimez? N'est-ce pas? Encore une fois, avec nos mains levées, je l'aime, je l'aime. Où est le pianiste? Là, si vous voulez bien, sœur, ou qui que ce soit, donnez-nous la note, s'il vous plaît. Combien l'aime? Levez juste la main. Dites, je l'aime, vraiment, je l'aime, de tout mon cœur, je l'aime. Maintenant, chantons-le à la gloire de Dieu. Maintenant, les yeux fermés, les mains levées vers le ciel. Je l'aime, je l'aime. Nous allons l'adorer. Quand on prêche, quand on taille, qu'on arrache et qu'on tire comme ça, ceci, c'est le baume que Dieu répand et qui guérit. Il y a un baume en Galiade pour l'âme. Chantons-le maintenant. Donnez-nous la note. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres. C'est vrai. Si nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres, nous qui nous voyons, comment pourrons-nous aimer Dieu que nous ne voyons pas? Je l'aime. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère. Maintenant, je pense que l'Église... Je pense que l'Église, que chacun a été fortifié, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, frère Bond. Je vous remets l'Assemblée. Que Dieu vous bénisse.